Du 14 au 24 décembre, le petit marché de Noël déménage. Mais si, mais si, cette année, Guidi les Galipettes nous emmène musicophage, 6 rue de la Bourse à côté d'Esquirol. Les portes seront ouvertes de 10h à 19h30. Inauguration le 16 décembre en direct sur Éphémère avec DJ Parpin. C'est tout ce que t'as à dire, toi ? Mais si, mais si, le petit marché d'art de Noël, c'est du 14 au 24 décembre, 6 rue de la Bourse, au musicophage.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 10 décembre 2011. Nos programmes pour cet après-midi à 13h30, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Jano Dead. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici les bons conseils shopping que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Vous ne seriez pas un peu le renouveau des séries françaises avec les autres shortcoms?
Oh putain, la France est belle.
Bah, à part Canal+, je vais dire, c'est pas Plus belle la vie ou Julie Lescaut qui va relancer ça. Hein. Je parle même pas de Flix 2.
Radio FMR présente... le supplément week-end... le magazine des cultures geek avec du sport, Ultimatum, Das Reich et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue, j'espère que... Mon son est super faible, voilà, c'est pour ça qu'on m'entendait pratiquement pas. Bonjour et bienvenue, j'espère que tout va bien. Bonjour du sport.
Bonjour.
Bonjour l'Ultimatum.
Et bonjour, c'est très déstabilisant de voir du sport qui n'est pas à la même place que d'habitude. Pourquoi tu t'assois là maintenant?
Parce que le micro est un petit peu mieux.
Ah d'accord, ok.
C'est exactement
il a l'air de zozoter moins que le vert ou le jaune.
D'accord.
Ouais. On va pas revenir là-dessus sur le traitement et tout ça. On va revenir sur.
On va y revenir parce que bon, j'écoute de moins en moins la radio à cause de ça.
C'est la 298e du supplément week-end. Ce serait bien que ce soit réglé d'ici la 300e qui aura lieu donc du coup le 7 janvier en même temps que la galette.
Ah ouais, le 7 janvier. Ouais, ouais. Et le 14, on a carrément un invité
dans
ça, c'est du sport.
Ah ouais. Bon,
donc ça va faire un supplément week-end un peu raccourci.
Ah, tu veux dire que Suzanne est de retour?
Ouais.
Et alors c'est...
Ouais, mais pas qu'elle.
Ah, et qui est l'invité? Quelle est la discipline?
Bah, qu'on a déjà reçu un pilote de rallye qui s'appelle Germain Bonnefils.
Et qui est super sympa d'ailleurs, ouais, je me souviens. Il a vraiment été fair play sur toutes les vannes qu'on a pu lancer.
Est-ce que tu vas lui refaire un quiz de moteur?
Oui, parce qu'on écoute le programme quand même. Hein. On remballe tout, on va manger, mais on écoute. Donc c'est juste déstabilisant pour les autres personnes qui sont dans la même pizzeria que nous voir avec nos gros casques en train d'écouter la radio.
Oui, voilà, parce qu'il faut vous remettre dans le contexte du sport. Passe des bruits de moteur et il demande à des pilotes d'identifier les voitures. C'est quand même assez tordu. Hein.
Ah bah écoute, quand même.
Non.
Alors c'est de la japonaise, non, c'est américaine. Ah merde.
Ce que vous avez entendu en intro, c'était ce qui s'était passé il y a 15 jours pour la précédente émission où on était en direct du Toulouse Game Show et c'était avec Rudy, Poumared, toute l'équipe en fait du... Non, ça c'est dans la musique du sport.
Ah bon.
C'est avec l'équipe donc qui était présent de la Flanders Company, on s'était bien marré, c'était je vais dire une émission qui a été assez longue sur laquelle on n'a pas eu les photos de la fin.
Assez longue.
3 heures.
Ouais, quand même.
Quand même. Et ensuite, on a assuré 2 heures de programme un peu discontinu pendant long de miroir. On remercie encore une fois Olivier Hague de sa participation et du beau bordel qu'il nous a foutu.
Tout à fait.
Si on n'a pas les photos, notamment pour l'interview qu'a mené du sport donc de Ernie Hudson, c'est que tout simplement Thomas a été grimé pendant le direct en zombie et voilà, ça a révulsé notre photographe. Voilà. Voilà, c'est assez amusant, mais pas pour elle.
Voilà.
Voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'une fois de plus, au Tous Game Show, on s'est vraiment éclaté. A priori, le prochain direct en extérieur, je dis a priori, ça devrait être à Angoulême, au Conseil Général. Donc on est actuellement encore en négociation, mais a priori, il n'y a strictement aucun problème de ce côté-là. Pour en revenir à Ernie Hudson, si vous l'avez manqué, puisque du sport a oublié, moi aussi, j'ai complètement oublié d'annoncer que dans Torchwood saison 4, Miracle Day a commencé depuis 2 semaines sur NRJ 12.
J'ai raté les 2 premières diffusions, c'est super. Et
non, mais ça sera rediffusé, t'en fais pas.
Ce sera multi-diffusé, mais je vais dire que c'est pas parce que la BBC s'est alliée avec une chaîne du câble américaine Starz que ils sont adoucis. Au contraire, c'est vraiment extrêmement noir. Politiquement, il y a une putain d'intrigue.
C'est extrêmement noir. Et puis, il y a Ernie Hudson, il y a également Mickey Pfeiffer dedans.
Celui qui jouait Lex Luthor dans la
alors,
série des aventures de Lois et Clark.
Non, alors attention, Mickey Pfeiffer n'est pas Lex Luthor, c'est pas lui. Hein.
Il y est lui.
Oui, mais
cas,
ce n'est pas Mickey Pfeiffer.
Pardon, je me trompe. Mais en tout cas, notre photographe plateau qui disait « Ah, c'est
Pfeiffer,
un tel !»
C'est le flic que tu vois apparaître dans la saison 2 de Lie to Me.
Voilà.
Entre autres. Voilà.
En tout cas, il y a vraiment beaucoup de monde.
Est-ce qu'il y a encore des allusions bisexuelles au bout?
Oui.
Ah bon, ça va.
Ça y va sec. Autre chose aussi, c'est 30 ans de radio éphémère depuis octobre jusqu'à la fin de l'année. Et il y a un film qui est diffusé à la Cinémathèque de Toulouse, un film de Jean-François Galliot et Joël Malberg. C'est le premier film qui est diffusé dans le cadre de Extrême Cinémathèque, qui est monté évidemment par les joyeux trublions de Extrême Cinéma. Ils en ont parlé dans l'émission du mardi. Bruce nous écoute, il va se foutre de ma gueule, j'ai oublié le nom.
Sinécure. Alors je profite au passage.
Ah, l'émission multi-rédiffusée comme Torchwood.
Voilà. D'ailleurs, je profite au passage tu vas certainement réécrire Franck Lubé sur ton blog et je te signale que c'est ET à la fin pas E accent aigu comme tu l'écris tout le temps.
Donc le film en question est un film mythique puisqu'il s'agit d'une radio mythique, Carbone 14, qui a été fondée en 78-79, c'était encore les radios pirates à l'époque et qui a disparu en 83. Il y a eu des histoires d'ailleurs sur la manière dont il a disparu,
les
mecs étaient derrière qui finançaient.
Tu l'as vu, le DVD ?
Non.
Tu l'as jamais vu. Il y a quand même La Fesse.
Je vais t'en donner un exemplaire.
Jean-Yves La Fesse, c'était bien avant qu'il fasse la voix du chat sur France 2. Il y avait Super Nana avant qu'elle soit l'égérie dans les années 90, Des Nuits sur Skyrock.
Et qu'elle décède il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs.
Oui, tout à fait. À notre plus grand regret, il y a vraiment dedans, je vais dire,
Également,
un casting.
On la voit pas beaucoup
incroyable.
Dans le film Frigide Barjot. David Grossex,
qui était avec Supernana, hein, à l'époque.
Voilà. Et il y en a un autre dont j'oublie tout le temps le nom, quoi. C'est pas grave. De toute façon, vous verrez ce que c'était, une radio libre dans le temps. Et surtout Carbone 14, hein, qui a eu une renommée nationale à l'époque, non pas parce que c'était une des premières radios pirates, et ensuite, après le 10 mai 81 et la légalisation des radios libres, par François Mitterrand, une radio libre, donc, mais surtout parce que, à l'antenne, c'était la grosse déconne, et que il y a eu quelques émissions mythiques, le couple qui fait l'amour en direct, des petits trucs comme ça, quoi, qui faisaient le bonheur de tous les quotidiens nationaux et régionaux, quoi, en mal d'informations très importantes. Bref, mais ça vaut quand même le coup de voir un petit peu comment ça se passait. Et ce qui est très intéressant, surtout, quoi, dans ce film, c'est de voir un petit peu, quoi, l'esprit de déconne et l'esprit de déglingue aussi, hein, qui animait les animateurs et tout le monde qui, tournait un petit peu autour, hein, parce que radio ouverte, hein, on va dire, locaux ouverts, grand ouvert, hein. Il y a même un para à un moment, quoi, dans le film, quoi, qui arrive. Et l'état d'esprit du président de la radio.
Oui, parce qu'on n'a jamais su qui finançait, pourquoi, etc.
Ouais. Personnage assez louche au demeurant, on va dire, pour ne pas dire autre chose. qui a complètement disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu, ce mec. On ne sait pas d'où venait le pognon, que dalle. Et qui tient des propos, parce qu'il revient comme ça assez souvent pendant le film, hein, pour expliquer comment il a monté sa radio, comment ça se passe, quels sont ses rapports avec la nomenclatura politique. Et bon, c'est un personnage qui est assez ambigu de toute façon, et qui, à mon avis, n'était pas franchement du même bord que les animateurs qu'il avait tout à coup, quoi.
À l'époque, Carbone 14, donc, était une radio qui a été fondée dans le 14e arrondissement de Paris. Je me souviens que Baudecroux avait dit sur un plateau, non mais franchement, Carbone 14, leurs locaux, c'était du luxe. Nous, à Énergie, quand ils s'appelaient encore Énergie FM Stéréo, ils avaient commencé, ils étaient dans une toute petite chambre de bonne de 12 mètres carrés. Alors que c'est vrai qu'eux, ils avaient...
Ils avaient un grand squat, ouais. C'était énorme, ouais.
C'est donc diffusé ce mardi à la Cinémathèque de Toulouse, à partir de 21h, diffusion unique. L'occasion justement de découvrir tous ceux qui ont réinventé, qui ont bousculé complètement l'écriture radio en France à ce moment-là et qui ont marqué durablement, hein, d'ailleurs, aussi bien les radios, les télévisions.
Ceux parmi beaucoup d'autres, hein, faut quand même le préciser.
Il y avait plein de radios à l'époque associatives, dont nous, dont Radio FMR, dont aussi d'autres radios. On va citer bien évidemment Radio Barbe Bleue, Radio Barbe Rouge, pardon, à Toulouse, devenue Canal Sud, et plein d'autres radios associatives qui ont toutes plus ou moins disparu. Accessoirement, dans le programme cette semaine, je sais que ça peut hérisser pas mal de gens, mais voilà, il se trouve que le Grand Prix de la Critique 2012 a été remis. Je n'ai pas participé au dernier tour, j'ai pas eu le temps de lire les 5 finalistes. C'est Paulina de Bastien Vivès, chez Casterman, qui donc a cette année le prix de la critique. C'est un très grand talent, il a 27 ans, il est déjà remarqué notamment pour ses différents ouvrages, que ça soit Le goût du chlore qui a été primé à Angoulême, Hollywood Jeanne qu'il a écrit avec Mickaël Sanlaville, Dans mes yeux, Amitié étroite, la trilogie Pour l'Empire qu'il signe avec Merwan aux éditions d'Argo, la BDQ qu'il inaugure au Requin Marteau avec Les Melons de la Colère. Donc c'est Paulina qui est une bande dessinée sur la danse. C'est une petite fille qui rêve d'être danseuse et on l'accompagne jusqu'à sa vie adulte. Bastien Vivès est qualifié par mes confrères de d'un virtuose qui donne une leçon de dessin en noir et blanc, plein de douceur, rehaussé d'aplagri. Bref, c'est chez Caster, édité par Casterman, et c'est l'ouvrage majeur pour les critiques de cette année. Je sais que ça froisse beaucoup de gens parce que Bastien Vivès, tout le monde en ce moment le trouve fabuleux. Bon, je dis tant mieux pour un auteur qui est relativement jeune, qui s'éclate bien et qui surtout travaille aussi bien avec les associatifs qu'avec les grandes éditions. Tant mieux pour lui. Thomas, toi tu...
Non, moi je connais peu ce qu'il a fait. Je suis pas fan du dessin. Enfin, en même temps, j'ai pas trop lu non plus. Alors, c'est relatif ce que je dois dire.
Attends, tu m'excuses, mais parce que moi j'ai été fan du dessin des Chevaliers du Zodiac.
Non, mais pour finir là-dessus, moi j'avais lu un bouquin, c'était pas très représentatif de son style, donc je m'abstiendrai de dire ce que j'attends de voir pas mal de bouquins qu'il a écrits, voilà, avant.
Donc je reprends la transition à peine écrite. Oui. Parce que moi j'étais fan du dessin de Murada sur les Chevaliers du Zodiac.
Le dessin de qui?
C'était Kurumada.
Ah, c'est mieux.
C'était moche. Alors que peut-être le dessin animé.
Eh ben écoute, ça a marqué pas mal de gens en raison du fait que le character designer de la série Les Chevaliers du Zodiac s'était emparé du style graphique de Kurumada pour l'adapter pour l'animation. Il faut savoir que le dessin de Kurumada à la base ressemblait plus à du Candy, à du Sailor Moon
il a travaillé sur Candy.
Ça je ne sais pas. En tout cas, c'était pas très shonen, et c'est vrai que le character designer Shingo Araki avait fait de l'énorme travail sur la série Senseiya. Il se trouve que Shingo Araki est mort, il aurait eu 73 ans dans quelques jours, il est né en en le 1er janvier 39 dans la préfecture d'Aichi, et donc il est mort le 1er décembre dernier. Il avait il s'était fait la main sur pas mal d'animations. Quand tu vois tout sur c'est, quoi il a travaillé, c'était assez énorme.
Il avait une carrière qui était absolument monstrueuse.
Il avait débuté dans les années 60 à l'âge de 25 ans. Il s'était fait remarquer par la Mushi Production de Tezuka. Il avait été intervalliste sur Le Roi Léo et sur Le Retour de Léo en 67. Il avait pas mal roulé sa bosse ensuite. Dans les années 70, il avait travaillé pour la Tokyo Movie Shinsha ou la Toei. Donc il avait participé au... il avait été animateur sur des séries comme Ashita no Joe, sur Mako la petite sirène, sur Devilman, ou Willy Boy. D'ailleurs, c'est marrant parce que Willy Boy, le petit cowboy qui passait dans le Club Dorothée, tu vois vraiment le style graphique qu'il avait aussi, c'était, on aurait dit Seiyard, mais en petit, mais avec un chapeau de cowboy, c'est très rigolo. En 73, il rencontre Michi Himeno qui va devenir son assistante attitrée et accessoirement sa compagne. Ils vont travailler ensemble sur Chéri Miel, qui est l'adaptation de Cutie Honey, et ils fondent en 74 leur propre maison de production qui s'appelle Araki Production, et donc il a participé à plusieurs adaptations de manga comme The Goldorak, Lupin the Third, Lady Oscar, Ulysse 31. Où son enfin il avait repris le caractère design de René Borg, puisque René Borg avait été dessaisi par les Japonais, puisqu'il était contre le fait que les Japonais fassent l'animation de la série. Il avait travaillé sur Albator 84, sur Inspector Gadget, 416, Lucie l'amour et Rock'n'Roll. Donc toutes les séries de notre enfance, c'est lui qui était derrière. Enfin, il avait travaillé dessus.
Enfin, il a travaillé sur la plupart des séries majeures. T'as oublié de dire que Lupin the Third, la version française, est connue sous le nom de Edgar le détective cambrioleur.
Oui, voilà. Et donc c'est vrai que c'est son travail entre 86 et 89 qu'il a vraiment propulsé sur le devant de la scène en France, avec donc ce travail sur la série Saint Seiya. Donc il faisait c'était le duo entre Himeno et lui, et il était revenu aux affaires sur les Chevaliers Zodiac, sur la franchise, avec le chapitre Hades qui avait été produit sur le tard il y a pas beaucoup de temps, et dernièrement il s'était plutôt concentré sur du manga, sur de la bande dessinée, dont justement Sourire d'enfance avait été publié dans le magazine de prépublication manga de d'Ankama, qui s'appelle Akiba Manga. Donc voilà, il nous a quitté le 1er décembre dernier. Donc encore un grand nom de l'animation japonaise qui disparaît, Shingo Araki.
Voilà, et Animeland fera un dossier spécial qui paraîtra donc normalement pour février, oui. Puisque donc l'info est arrivée un petit peu tard. On va entamer la revue de presse. On va commencer avec Zoo. Zoo, qui est un gratuit qui est disponible là dans la plupart des supérettes culturelles et dans les libraires, chez les disquaires, un petit peu partout. Qui est un magazine culturel gratuit. C'est le numéro 36 qui est devenu bimestriel depuis le début de l'année. C'est un numéro spécial Noël. Qui dit spécial Noël, qu'est-ce que l'on peut offrir? Ils sont intéressés aux bandes dessinées jeunesse qui sortent chez Bambou, avec 2-3 planches qui sont prépubliées, mais aussi, par exemple, des questions existentielles comme comment offrir des mangas à Noël. Eh ben, ça tombe bien puisque au moment de Noël, en novembre,
offrir des mangas à Noël, tu vas acheter en libraire et t'achètes des mangas, je sais pas.
Oui, mais est-ce que tu vas pas faire un faux cadeau en fait, en offrant une série qui va aller trop loin, etc.
Et piège. Là
il y a quand même des coffrets collector qui arrivent et qui sont intéressants. Moi personnellement, s'il y a un coffret collector qui est à offrir cette année et qui vient d'arriver, il s'agit de l'intégrale Pluto de Naoki Urasawa, qui est sorti chez Kana.
Ça dépend pour qui. Si c'est pour un gamin, non.
Mais pour un amateur de BD adulte et tout ça, c'est franchement, à mon avis, ou quelqu'un qui connaît l'œuvre de Tezuka, c'est quand même un excellent cadeau. Il est aussi question, par Jean-Philippe Renou, d'un reboot réussi pour 13, à savoir la reprise par Jigounov et Yves Sant, donc de la série qui a été créée par William Vance et... je vais y arriver. Et Jean Van Hamme, Jigounov, qui avait commencé avec Alpha, qui s'inspirait plus ou moins justement de la bande dessinée, justement 13 au niveau graphique, et qui l'a su réadapter. Jigounov a une histoire assez particulière, puisque lui, il est venu de Russie en France en 95 sans savoir. Enfin, il est allé en Belgique, en fait, il est allé voir les locaux du journal Tintin, il est allé au Lombard directement, en parlant à peine français, c'est-à-dire il savait juste dessiner, et il a dit, il a dessiné Tintin, c'est où? Et donc il s'est retrouvé
vodka, voilà, là-bas. Vodka Saint-Pétersbourg.
Alors je vais pas trop insister là-dessus, mais oui, non, parce qu'en plus il a appris le français à une vitesse stupéfiante. Quand je l'avais interviewé à l'époque.
Alors ma question c'est qu'est-ce qu'on peut écrire sur 13 encore? Alors évidemment toi tu vas encore dire que oh oui pour toi la série s'arrête avec 13 contre 1, mais à part ça.
Le jour du Mayflower, le 20e tome, à ce qui paraît, c'est une idée vraiment intéressante, puisque enfin on a trouvé l'identité de 13. Ils nous ont juste fait le coup.
Oui, 5, 6, 7,
8, 9, 10, oh, je sais plus. Donc voilà.
Non, mais là, c'est sûr, il s'appelle comme ça, c'était sa vraie identité. Deux albums plus tard. Ouais, mais en fait, c'était pas ton vrai nom parce que t'avais été adopté, puis, mais bon, je considérais comme, oh putain.
Oh, non, c'est pas vrai. Bref, vous voyez le genre. Il est aussi question de Sasmira, je vais y arriver. Donc, qui est une série qui graphiquement absolument sublime, dessiné par Laurent Vicomte. Seulement Laurent Vicomte, ben, c'est le dessinateur de La Balade du bout du monde, et on sait tous qu'il met un temps monstrueux à chaque fois pour sortir le nouveau tome. Et ben le tome 1, il a juste quoi, oh, je crois bien qu'il a 10 ans, je ne suis pas sûr.
J'espère
mais...
pour lui qu'il fait autre chose à côté.
Le tome 2 est enfin arrivé. Et donc, eh ben, justement, est-ce que c'est intéressant de se lancer là-dedans et d'attendre un éventuel troisième tome? C'est sorti chez Glénat et tout ça. Tout ça, c'est dans le Zoo, c'est une numéro spécial Noël. Du sport, de ton côté, toi, tu as du comics.
Ouais, avec le Comic Box numéro 73. Et surtout quand tu lis la couverture, tu remarques tout de suite Frank Miller. Tu dis ouais, ça va cracher, excellent et tout, parce qu'on sait que le bonhomme est se fait assez discret dans les revues spécialisées, voire dans les revues généralistes quant à son travail.
Il a toujours refusé les interviews et toujours, tout ça. Et voilà, les interviews qu'il a fait, c'est toujours un polémiste, c'est-à-dire il va hérisser tout le monde. C'est son grand jeu.
Exactement. Et c'est encore le cas, bien entendu, pour Comic Box.
Pourquoi je suis pas surpris ?
Qui a quand même réussi à le faire parler. Alors, eux, ils sont vachement contents. Ils ont dit, putain, ouais, on n'y croyait pas. On a relancé depuis pratiquement le numéro 1 de Comic Box. C'est-à-dire, ça remonte à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Je sais pas, je me rappelle même pas. Hein, à raison de 73 numéros divisés par 6, ça va, vous voyez, ça vous fait le nombre d'années. Hein, c'est pas compliqué. Et là, ben, on se dit ouais, génial, classe. Alors, si c'est l'interview, comme on a l'habitude de les voir et de les lire dans Comic Box, c'est des interviews sur au moins 4 pages, quoi. Donc, on apprend beaucoup de choses, c'est vrai, sur des auteurs qu'on n'a pas l'habitude de connaître, que ce soit des scénaristes, que ce soit des dessinateurs. Et là, ben, ok, direct, tu vas à la page en direct des USA. Et tu remarques qu'il n'y a qu'une demi-page d'interview de Frank Miller, et qui en plus, et c'est dit en préambule par les rédacteurs, hein, qu'il ne parle que de la bande dessinée qu'il vient de sortir et rien d'autre. Donc pas de cinéma, pas de trucs concernant
c'était
ses œuvres passées,
que ce soit contrat, pour DC,
rien. Mais alors que dalle, nada, il ne parle que de Holy Terror, qui est en fait sa dernière bande dessinée sortie. Et qui est une espèce de énième version de ce qu'est l'Amérique après le 11 septembre. Et c'est ça, un petit peu sa vision personnelle de l'après 11 septembre. Et déjà, la bande dessinée fait vachement polémique parce que bon...
Tiens donc,
un peu fascisant. Frank Miller, on va dire, voilà, c'est ça. peut-être des vues très tranchées en ce qui concerne l'envahisseur, surtout quand il est situé du côté de l'Extrême-Orient. Ou de
Moyen-Orient.
L'Afghanistan, le Pakistan par là-bas.
C'est
là
le
où se tairait un certain Oussama.
Des barbus, ouais.
Tu vois, donc ça l'a fait assez mal, ça fait assez mal quand même. Mais enfin, lui il s'en défend avec quand même beaucoup de culot, je trouve quoi. Et il s'en sort pas mal du tout. Hein, franchement quoi, parce que évidemment ça peut toujours être à double tranchant, hein. Ça c'est pas un avis qui est vraiment tranché, et il dit simplement ouais, mais c'est les faits qui moi je ne fais que qu'argumenter en fonction des faits qui sont déjà établis, j'y peux
non,
rien.
Non, des faits.
j'y peux rien si la majeure partie des Arabes s'appelle Mohamed, c'est pas ma faute. Enfin bon, tu vois, enfin genre mais c'est vrai, il énonce des vérités. C'est pas faux. Alors après bon ben ok, c'est ce qu'il y a derrière qui peut être dérangeant ou pas. C'est toujours le même problème de toute façon.
Et sinon, au niveau du style graphique, ça donne quoi cette BD à peu près? C'est de la noir et blanc à la Sin City ou ouais, parce que là, je vois une couverture colorée qui m'a pas l'air très très bandante, on va dire.
Ouais, mais enfin bon, ça fait partie du c'est parce que c'est le fond orange quoi qui doit te déranger peut-être quoi.
Bon, d'après moi, je préfère plus la planche en noir et blanc là qui ici là.
Ouais, bah c'est un extrait de la BD hein,
d'accord,
toute façon,
bon
quoi,
ça
ouais,
va, donc, il a rien perdu quoi.
Non, il a rien perdu hein, de toute façon quoi. Et les rédacteurs disent bien qu'il revient un petit peu au style qu'il avait de Sin City de tout ça, c'est-à-dire bon bah bien rough, bien donc
nerveux, quoi.
Ouais, bien nerveux quoi. Donc de ce côté-là quoi, bon bah hein, c'est du Frank Miller. Mais c'est pas que Frank Miller. OK, passé bah cette petite déception, on va dire hein, à l'ouverture du Comic Box 73, on a dans la rubrique habituelle, bon il y en a beaucoup, mais la rubrique habituelle qui ouvre pratiquement le magazine hein, juste après le sommaire, qui s'appelle le comic book décrypté. Et en fait tous les deux mois ben ils vont choisir un comic book, généralement soit un DC soit un Marvel, et ils vont le décrypter, c'est-à-dire ils vont expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants, si ça tient la route, quelle est sa place dans l'univers complet de la maison d'édition. Et le petit verdict. Et là, oh surprise, ce n'est ni un DC ni un Marvel, ce n'est même pas une œuvre qui est sortie dans une maison d'édition, on va dire dissidente, quoi, comme Top Cow, comme Image ou d'autres petits éditeurs de comics. Mais c'est un truc qui s'appelle Chasseur de Ptérodactyles, et qui est pratiquement, on va pas dire sorti à compte d'auteur, mais enfin bon presque quoi, c'est-à-dire vraiment sorti pour l'édition française aux éditions Ça et Là. Alors bon déjà
ah oui
dis, ah bon ah ouais d'accord. Et quand tu sais que ça se passe donc dans un univers uchronique quoi, c'est-à-dire que bon bah ok, la dimension de temps a un petit peu été modifiée, on rajoute des trucs qui n'ont pas vraiment existé, qu'on se retrouve dans le New York du début du 20e siècle, et que eh bien il y a encore une invasion de ptérodactyles qui plane sur la ville, et que donc
c'est-à-dire en clair ils ont juste modifié l'invasion des alligators dans les égouts de Manhattan par des ptérodactyles,
et donc pour s'en débarrasser eh bien il faut utiliser des ballons gonflables, parce qu'à l'époque les avions ça n'existe pas tellement hein, c'est le début de l'aviation quand même, début du 20e, donc ils utilisaient des ballons gonflables et tout, et pour les dégommer eh ben ils utilisent des lance-grenades enfin tu vois c'est... Et donc la bande dessinée surtout en axé non pas sur le fait qu'il y ait des chasses de ptérodactyles, donc la menace qui vient de l'extérieur, une menace surhumaine de bestioles même si elles sont monstrueuses, mais plutôt sur l'antagonisme entre deux frangins qui font partie de la même patrouille de chasseurs de ptérodactyles. C'est l'œuvre de Brandon Leach qui fait le scénario et le dessin, et première vue, moi ça m'a l'air quand même assez intéressant, parce que bon c'est quand même très très
Ah oui, c'est comme tu disais c'était rough, là c'est encore plus rough,
c'est
là
c'est rough de chez rough quoi, tu vois.
C'est ouais d'accord.
Alors donc ça a rien à voir avec ce qu'ils font d'habitude dans cette rubrique, ouais. Le comic book décrypté où c'est du DC, du Marvel, là vraiment mais bon tu peux même voir sur la planche, bon c'est reproduit en tout petit quoi, mais enfin bon ça a l'air quand même assez intéressant quoi, on va dire
plus graphic novel, on va dire,
voilà, ouais tout à fait, graphic novel, vraiment graphic novel à fond quoi, passer ce comic book décrypté. Alors il y a aussi un article qui est vraiment très très rigolo qui s'appelle Mask Attacks, et qui concerne c'est un reportage sur des super-héros mais réels qui existent vraiment dans les grandes villes des États-Unis. Et qui essaye non mais genre un petit peu à la Kick-Ass, tu vois.
Ouais, des justiciers quoi.
Des justiciers, mais mais ils font pas les cons comme Kick-Ass quoi. Parce que sinon ils se feraient dégommer la gueule à fond les manettes comme dans Kick-Ass quoi.
Ouais.
Bon bah OK hein, parce que bon bah la vie réelle c'est pas vraiment comme dans les comics quoi hein, c'est clair quoi. Mais ils détournent un petit peu. Alors ça nous raconte bien les deux sortes de super-héros. Alors en plus ils sont vraiment masqués hein, tu peux le voir, il y a les photos quoi. Et c'est pas du bidonné, hein, c'est vrai, hein, ils se baladent comme ça, quoi.
Oh là là.
C'est pas du bidonné, quoi. Et
sinon, et ils font quoi alors, à part se grimer?
Et alors donc, bon bah, ils ont un rôle de
vigilante.
Ouais, pas de vigilante, parce que bon bah, il y en a qui sont pour l'action violente, quoi. Mais enfin ok, c'est ça va pas très loin, parce que bon bah ok, il y a les retours de manivelle qui sont un petit peu durs, et d'autres.
Pas possible.
Et d'autres qui font ça un petit peu à la Guardian Angels, comme il y avait à une certaine époque. Il y a 15-20 ans dans le métro, c'est-à-dire qui essaye de prévenir de possibles abus, ou voir qui file un coup de main.
C'est les patrouilles citoyennes inventées par un certain milieu politique en France.
Ouais, ou alors carrément, bon, ok, quoi, ce sont des aides, ou des aides à la
aux citoyens.
Aux citoyens, c'est-à-dire que bon, ok, la soupe populaire, des petits trucs comme ça et tout, quoi, on rend des petits services et des trucs comme ça et tout, c'est-à-dire on rend un petit peu le monde meilleur en agissant un tout petit peu à son échelle, quoi, pour aider les plus démunis, les plus pauvres et tout ça.
Mais masqué. Dans Astro City.
Même masqué. Et alors, quand tu vois que démasqué, c'est pas trop mal, quoi.
Ah ouais.
Hein, tu te dis, parce que bon, il y en a deux qui sont venus en France pour une conférence, quoi, dont elle et un autre type.
C'est
là,
bien,
quoi,
parce qu'on voit que les nanas ont des corps aussi de super-héroïnes, ça c'est bien.
Ouais, non, mais bon, alors bon, bah, enfin. Bon, là, t'as un petit peu l'exemple, quoi, de ce que ça peut être.
Oh là là. Non, là, vrai que la frontière avec le cosplay est très floue.
Ouais. Alors, juste une question. Dans Astro City, si je me souviens bien, il y a un vigilant qui est salarié par un groupe de presse, hein, où il porte le nom, d'ailleurs, du journal. Est-ce que ça existe aussi aux États-Unis, c'est-à-dire des hommes en costume qui se prennent pour des justiciers et qui se font sponsoriser?
Non, ce n'est pas stipulé dans l'article. C'est vraiment des initiatives personnelles au départ.
Pure et dure.
Après, initiative personnelle, mais après, au bout d'un certain moment, une fois que la mayonnaise a un petit peu prise et qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout seuls, qu'il y en avait d'autres qui faisaient ça dans leur coin et tout, il y a des associations, mais selon des affinités, on va dire, par rapport aux actions qu'ils peuvent mener et par rapport à leur feeling concernant ses actions.
Ouais, c'est parce que le comédien, quand même, il est sympa, mais il y va un petit peu fort.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que bon, bah, le super-héros réel qui fait du vigilante pur et dur, quoi. Bon, bah, ok, c'est vraiment la marge. Et ils sont assez vite foutus de côté par les autres quand ils ne sont pas envoyés à l'hosto, parce que bon, bah, ils ont fait un truc de trop.
Oh,
À part ça, on a les interviews habituelles, hein, des artistes. Donc Terry Dodson, alors là, excellent, très bien, hein, putain, là, carrément, quoi. Alors le mec, déjà, il dessine les gonzesses, mais pas que, hein. Y a rien à dire, quoi, ça, ok, quoi. Il a travaillé sur, c'est lui qui a créé Harley Quinn. Il a fait Spider-Man, il a fait Wonder Woman. Ok, quoi, y a rien à dire. Hein. Il y a également Bill Sienkiewicz.
Il s'est frotté à toutes les super-héroïnes.
Ouais.
Ce genre d'allusion, s'il te plaît.
Non,
il est midi 30 pile, ça va, stop.
Bill Sienkiewicz également. Alors là, ce n'est pas un interview, mais c'est un article complet pour bien comprendre qui est cet auteur, qui est quand même un auteur majeur. On parlait de Frank Miller avant, c'est quand même avec Miller qu'il y a ce renouveau au niveau du Daredevil, au niveau
Electra,
de
ouais.
Electra, hein, donc mais pas que, hein, parce que Sienkiewicz est vachement plus vieux, quoi, hein, lui il a commencé dans les années 60, fin des années 60. On a la bande dessinée inédite, alors un épisode absolument excellent entre Batman et Deadshot. C'est pas mal, quoi, c'est vraiment assez sympa. Moins sombre que les Batman qu'on a l'habitude de voir dans les périodiques, dans les DC habituels, hein, chez Panini en kiosque. Mais c'est assez appréciable quand même, ça. On dirait, c'est carrément une espèce de respiration, on va dire, entre deux épisodes de Batman tels qu'on connaît actuellement. Enfin bon, pour l'instant il est mort, il est pas encore tout à fait revenu ici.
S'il vous plaît.
Donc ok, on arrête là. Il y a également, alors ça tout de suite, Thomas s'est jeté dessus et tout sur l'article concernant Ankama. grappille un petit peu comme ça, quelques petits comics, quoi.
Pourquoi je me suis jeté dessus, c'est parce que j'ai reçu le dossier de presse d'Ankama et pour moi j'ai rien compris en fait. Donc là, je regardais l'article pour savoir ce qu'ils avaient compris.
On voit qu'Alix n'y est plus. Hein.
Si Marie nous écoute, loin de moi cette idée.
Ouais, Marie, si tu nous écoutes.
Non, mais je pense que d'ici une prochaine émission, je mettrai au point le système. J'essaierai de vous expliquer, de synthétiser. Quelle va être la nouvelle donne en 2012, parce qu'en 2012, c'est-à-dire très bientôt, ça va être le gros bordel en ce qui concerne les diffusions des comics que vous avez l'habitude d'acheter en kiosque, les DC et les Marvel, parce que Panini a perdu les droits.
Vous voyez les reboots c'est pire.
Ça va être un petit peu le bordel. Donc il va falloir revoir comment tout va se passer au début de l'année 2012. On sait qu'il y a Delcourt qui est dans le coup. On sait qu'il y a Ankama qui est dans le coup, mais il y aura peut-être encore un troisième acteur qui va se mettre dans le coup. Bref, ça va être un petit peu gros bordel.
Pour les DC.
Et les Marvel aussi. Hein.
Oui, mais Marvel, c'est Panini toujours, les Marvel.
Oh merde. Ça va être le gros bordel. Ouais. Ça va être le gros bordel.
Je crois qu'il y a toujours des contrats qui n'ont pas été réveillés, qui appartiennent à Glénat via le rachat de Zelda. Et ça remonte à où?
Oui, oui.
La maison d'édition Zelda, c'était il y a longtemps.
Oui.
C'était il y a 15 ans.
Voilà. Donc pour terminer avec ce comic box, Stefano Caselli également, est un super dessinateur que moi j'aime bien. Tout ça donc dans ce numéro qui est encore disponible, puisque c'est le numéro bimestriel novembre-décembre, et avec comme accroche bien sûr Cyclope est-il passé du côté obscur, également la présentation de la nouvelle nouveau gros machin de chez Marvel qui s'appelle Fear Itself, mais qui d'après l'explication qu'ils en donnent a l'air d'être un reboot bête et méchant. Donc est-ce que ça va coller ou est-ce que ça va pas coller, on le verra. En tout cas dans vos kiosques vous avez les premiers Fear Itself là qui commencent à sortir.
Comic Box 6,90€ en kiosque bimestriel, donc c'est le numéro 73.
Ouais, ça fait 3,45 par mois en fait.
Ouais, à peu près. 12h35 le supplément week-end sur la poubelle des radios, sur FMR, et c'est l'émission numéro 298.
Ça, tu passes du apocalyptique à enfant sonore, toi.
Exactement. Death Zone, extrait de l'album, j'ai oublié, voilà. Ça m'apprendra. Tout à fait une autre ambiance avec Serge Hanequin pour Des Fragments de l'Oubli. C'est une trilogie qui vient de commencer dans la collection Quelle Amarche chez Paquet. Le premier tome s'appelle Faustine Et cette Faustine qui est dans le titre du livre, eh ben, elle a 15 ans. Elle est fille unique, elle a pas de mère. Et son père vient de lui annoncer qu'il ne serait pas là pendant un certain temps, encore une fois de plus. Un père étrange à la tête d'oiseau, regard perdu ailleurs et qui se barre comme ça. Faustine contient sa peine, sans plus, et se confie à sa mère, à savoir un dictaphone. Faustine vit toute seule donc, dans un appartement au-dessus du théâtre désaffecté de son père. Il y a quelques voisins comme Madame Nikolov, une vieille dame très charmante, mais très âgé, ou encore un nouveau venu qu'elle a à peine croisé et qui se fait plutôt discret. Elle entend juste les bruits de pas dans l'appartement à côté. Faustine a 15 ans donc et un petit copain, Samir, le mec le plus cool qu'elle ait jamais connu. Elle a décidé de lui faire découvrir son petit jardin secret, à savoir le théâtre de son père, qui sert aussi d'atelier de peinture à son père. Son père racontait à Faustine que jeune, une fois dans les caves de son HLM, il a eu une expérience mystique avec une drôle de boule de métal liquide et qu'il a croisé une présence étrangement familière mais indéfinissable. Encore un mystère de plus sur son père qu'elle serait bien incapable de lever encore une fois. Mais les choses ont changé. La première rencontre avec un roman de Jules Verne, une migraine carabinée, des phosphorescences à la fois inquiétantes et apaisantes et... Et je vous laisse découvrir la suite avec le graphisme et l'ambiance si particulier de Serge Hanequin, qui peut à tout moment vous faire partir dans des rêveries ou le fantastique. Son trait peut franchement vous faire perdre la réalité, vous faire croire que ces personnages ne sont que les jouets d'un rêve. Encore une fois, une très très belle histoire onirique dans la collection Calamar, un très beau songe dans la mélancolie des souvenirs et des fantasmes de l'enfance. C'est de Serge Hanequin, Les Fragments de l'oubli. Le premier tome de cette trilogie s'appelle Faustine, c'est dans la collection Calamar chez Paquet. Collection Calamar où on avait déjà énormément remarqué Doomboy.
Oui, c'est la collection dirigée par Sandoval, hein.
Exactement, et donc là pour une fois c'est pas lui qui intervient dans la production de l'album, mais... C'est beau, c'est ce noir et ce blanc, les couleurs sont très fades à dessin, et waouh.
Bah c'est plutôt du noir et du beige, parce que le blanc, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Toi, t'as pas l'air de trop accrocher.
Non, c'est pas ça. Au contraire, au départ, j'ai feuilleté rapidement, je me suis dit, ouais, mais finalement, oui, j'ai rozioté, et oui, ça a l'air intéressant, oui. Mais c'était pas une critique, hein. Le fait qu'il n'y ait pas de blanc, justement, ça épaississait l'ambiance graphique et le mystère. Oui.
Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances, des fois, avec des personnages de Sampé, dans les personnages du quotidien qui sont dans le vague, notamment la vieille dame et tout ça, il y a quelque chose donc dans Nikolov et tout ça, il y a un peu de traits de Sampé, il y a tous ces grands illustrateurs du noir et blanc français des années 60, 70, 80, il y a aussi, j'ai eu l'impression d'avoir du Folon, en tout cas moi j'ai trouvé ça extrêmement beau.
En plus la colorisation c'est vraiment de la peinture mais pas très diluée, enfin, c'est vraiment du sec, avec, on voit les traces de pinceau, alors je sais pas si c'est de l'acrylique ou... quelque chose comme ça, mais en tout cas le noir, c'est sûr que c'est pas du tout dilué, mais du tout. c'est vraiment la peinture à sec, comme on dit.
Là, je ne sais pas si je dois prendre un ton professoral, style j'apprends, je vous apprends l'histoire à l'ancienne, le prof avec la craie sur le tableau et tout ça et tout le reste. Ou bien si justement c'est côté enjoué. Je n'en sais trop rien. En fait, on vous avait déjà plusieurs fois parlé dans cette émission que il y a deux manières en fait de raconter l'histoire. Il y a le factuel et la vie quotidienne. Et là, à mon sens, c'est un bouquin qui montre justement la vie quotidienne de l'époque. Et c'est un très très beau livre.
Parle en latin, ce sera
in
plus
latinum
simple.
In textum, vincentus enim aneam decers at textum, Marc enicio at frescam, André Bienfait, Virginie de Trust, donc à la colorisation, et d'après évidemment la série de Jacques Martin, c'est Les Voyages d'Alix. Ce n'est pas une bande dessinée, c'est un guide, c'est une série dérivée, et c'est consacré à Pompéi, donc c'est pas une nouveauté, c'est une réédition recomplétée qui vient de sortir chez Casterman. Et en fait, pour je vais raconter un petit peu d'histoire, mais en 1948, quand Jacques Martin a créé Alix, le premier tome des aventures du Gaulois dans l'Empire romain, c'est bourré d'erreurs, à vrai dire, c'est bourré d'approximations. Mais très vite, Jacques Martin y fait attention, et dès le quatrième tome, les historiens commencent à louer la qualité de reconstitution de ce dessinateur méticuleux. Méticuleux, mais aussi sacrément exigeant, hein, quand même, quand il a besoin de déléguer une partie de son travail. Puis finalement l'entièreté de son dessin, puisqu'il est atteint de morula et qu'il commence à ne plus très bien voir à partir du début, à partir du milieu des années 80. Dans les années 80, et crée une série dérivée innovante, Les Voyages d'Alix, sorte de guide de voyage dans les hauts lieux touristiques de l'Antiquité romaine. Servi par un dessin d'une reconstitution archi-précise, relu par les historiens, chaque album est une réelle découverte. Et cet album a été réécrit, complété, et de nouvelles illustrations donc font partie de cette mise à jour qui sort à l'occasion du 30e album d'Alix, qui s'appelle La Conjuration de Baal, où Alix et le prince Enac donc retournent à Pompéi. Ils étaient déjà passés dans la griffe noire, mais on se doute qu'il y a à la fois une opportunité commerciale pour l'éditeur, mais aussi une très bonne occasion de découvrir l'une des villes les mieux conservées à l'époque actuelle de l'Empire romain. Pompéi, détruite en 79 après J.C., n'est pour l'instant connue qu'aux trois quarts. Il faut dire qu'elle a été entièrement ensevelie sous les cendres et les nuées ardentes d'une manière assez brusque, à tel point que la plupart des habitants n'ont pas pu fuir. Il y a une chose d'ailleurs qui est à voir à Pompéi, c'est les moulages qui sont faits à partir tout simplement des creux qui sont laissés par les corps calcinés des habitants dans les cendres. Pour l'instant, les fouilles resteront en l'état, car si la ville antique est devenue une attraction touristique, il manque actuellement cruellement de fonds pour maintenir en l'état ne serait-ce que les bâtiments restaurés et visitables par le public. Je parle même pas des autres bâtiments. Pompéi est de plus très proche de Naples, et bien évidemment, toujours très proche du Vésuve, hein, qui à tout moment est un volcan qui est susceptible d'entrer brusquement en éruption. Et hop, allons-y, comme en 79, on va y aller. Ce qui surprend à la lecture donc de ce voyage d'Alix, c'est d'apprendre que Pompéi avait une influence qui était plus grecque et égyptienne avant d'être romaine. En fait, elle a été romaine que vers 80 avant Jésus-Christ. Ce que l'on remarque aussi, ce sont les fresques photographiées et reconstituées par Marc Enicio, et on se rend compte que leur peintre n'avait que très peu à envier avec la Renaissance. Là, de ce côté-là, franchement, pour moi, ça a été une claque. En lisant ce guide, on apprend aussi que cette ville avait des jeux du cirque bien avant Rome. D'ailleurs, c'est justement au contact avec les jeux du cirque de Pompéi que Rome a décidé d'apporter ce genre de divertissement à grand spectacle. Ou encore, puisqu'on est en période électorale, je le rappelle, qu'à l'époque, les murs étaient couverts de graffitis politiques et que les partisans étaient payés par les candidats pour faire leur propagande en allant dans les marchés, tout ça, dire « Ah non, mais tel candidat, c'est le meilleur, il va penser à la sécurité intérieure, il va penser au respect des artistes, il va penser à la réhausse des minima sociaux, il va penser... » Bon, tout le reste, vous imaginez, bien évidemment. On apprend vraiment plein de choses. Le texte est parfois très dense, en plus la police est c'est une police assez qui laisse assez peu de place dans les interlignes, donc c'est vrai que c'est pas évident des fois pour quelqu'un qui est un petit peu fatigué pour le lire, mais les illustrations, elles, c'est de la bande dessinée ligne claire, réaliste, franchement totalement irréprochable. C'est juste amusant parce que dans la plupart de constitutions de vie quotidienne sont mis en scène Alix et Enac. des fois pendant les reconstitutions justement de l'éruption 79. Mais ce guide va au-delà de ces renseignements, je vais dire, d'une époque révolue. C'est un vrai guide touristique qui vous indique les tarifs, heures d'ouverture, numéro de téléphone, moyen de transport pour aller visiter Pompéi, Herculaneum et le musée des fouilles de Naples.
J'ai eu peur quand il disait « Ah, ça vous indique les numéros de téléphone de l'époque
!» Et même les sites web. Donc, il y a vraiment des informations, il y a les heures
d'Internet, Pompéi.
Et eh ben oui, ben du coup, ça se visite et c'est franchement intéressant. Page 44, une illustration double page, un ancrage quasi fini, la destruction de Pompéi vue par ses habitants qui crurent trouver refuge dans le cimetière la rue des tombeaux. Pas de mise en couleur. On imagine que cette planche est la dernière que Marc Enicchio a réalisée avant sa tragique disparition l'an dernier à 52 ans. Bah oui, finalement, ce disciple de Jacques Martin nous a quitté la même année que son maître. Vincent Hénin et Anne Descasses donc ont réalisé les textes. Maté dessus d'ailleurs Thomas. Marc Enicchio a fait le dessin. André Bienfait et Ingrid de Woust ont réalisé la colorisation. Et c'est d'après la série de Jacques Martin. Les voyages d'Alix Pompéi. C'est chez Casterman. Thomas avait dit tout à l'heure, il avait feuilleté avant l'antenne. Et il a dit, mais putain, mais c'est le truc à foutre dans toutes les écoles, voire à utiliser comme support de cours.
Ben moi, je m'en souviens, quand j'étais au collège, on faisait des exposés sur les termes romains, enfin les termes, les bains en public. Là, c'est sûr que là...
La vie privée des hommes, tu sais, les grands guides rouges et tout ça, c'était des textes et tout ça. Là, on a des grandes illustrations.
Non, et puis bon, c'est de la grande illustration. Alors certes, c'est en style BD, donc ça rebutera toujours certains enseignants, mais... De toute façon, la précision du trait et tout, tu te dis vraiment que c'est quand même un boulot de fou quand même de faire des pleines pages comme ça, de décor. Parce qu'en plus, t'as des personnages et tout, mais t'as des doubles pages à un moment donné où tu vois la ville reconstituée de haut. Et puis là, t'as vraiment c'est vraiment un travail d'architecture, mais
on se souvient que l'un des disciples de Jacques Martin, Gilles Chaillet, avait fait une reconstitution précise de Rome telle qu'elle était au IIe siècle, si je me souviens bien. Il faisait 3,80 m sur 2,50 m, précision de la moindre rue, le moindre bâtiment avait été reconstruit à tel point que ça sert actuellement de référence pour les historiens. Donc c'est fou furieux d'histoire.
En plus, voilà. C'est vraiment passionnant parce que là tu vas pas sur les lieux avec les ruines avec trois pauvres colonnes qui sont détruites et tout, t'as la reconstitution. Bon alors certes avec ce que ça comporte de subjectivité dedans, mais tu te plonges dedans, tu es happé vraiment dans l'illustration, tu peux passer un quart d'heure par image. Voilà, c'est vraiment impressionnant, oui. C'est...
Du sport, toi, tu lisais, le journal de Tintin, toi.
Lui, il voit tout ça à l'envers oui. Pour l'instant, je suis en train de feuilleter, mais il est de l'autre côté de l'image, lui.
Ça, enfin voilà, c'est au format cartonné, album BD, donc ça ira bien avec les Alix. Donc, pour initier un gamin qui aime beaucoup l'histoire à la bande dessinée, ou inversement, pour initier plus à l'histoire quelqu'un qui aime bien la BD,
Pour initier à l'histoire, à la mythologie, voilà, vous mettez Saint Seiya, vous mettez Hercule Xena la guerrière, et vous mettez cet album.
À point de vue mythologie, il est juste question, en fait, ben, que justement, il y avait des temples d'Isis, sur lesquels il y avait des histoires de malversations et tout ça. C'est assez rigolo, quoi. C'est, de ce côté-là, c'est très très fun. Parce que vraiment, il y a plein de détails, justement, tout ce que l'on apprend sur la vie privée et l'histoire de la redécouverte de Pompéi depuis le 18e.
En plus, ça se dit bien parce que c'est le côté sympa de la mythologie antique, puisque vous n'avez pas à vous farcir les leçons de latin, là. Donc ça, c'est bien. Vous prenez votre pied en lisant les images.
Et Bruce a gagné son pari. Ça fait 10 minutes que je parle de ce bouquin. Voilà.
Ouais, mais on est à 3, nous. Ouais, ça va.
ça va. 12h52 sur la poubelle des radios, vous écoutez FMR. Du sport est complètement happé dessus. Tout à l'heure, il revient avec du polar. En attendant, DJ Mink. Hey hey, can you relate? Remixé par Luc Vibert.
wish was in words coming out from the power within. Kill the dead, want a minute, it's a mood to meddle with. Send you on your way without a bike to pedal with. Here's the rhyme that I gave you to settle with. Who will try to bring me down to your level with? Loose lips, sink ships, or the worst. My temperature's way up high, ready to burst. My lips are fresh, cause we're living and breathing. You never wanna battle when I come, you're leaving. Paraffin lights, if it's touched by a naked flame. When I hold the mic, I see rappers do the same. It's a shame, but it's the name of the game, but still, I change my style and chill. Not once, but twice, you gotta watch the rebound. Watch the way the KID can throw down. There's not a sound to be found in the area. I look good and I fit with the interior. Step back and you'll be lost in the rubble. The KID speaks for twice in trouble. Chase's first cry, bench is broken, my case is open. The joke is not a joke when you're badly spoken. The joke is simply what you place on me. What hurt me or even the cake. I think tug on this or some of batches. Please what you see in the secret patches. Follow what you is, pick up the style of complete. But you turn the receiver, now it's time to meet ya. Running the helper, helter skelter. We was meant to have unwrapped temper. Fifth in order, you're twice a true. But I was drawn back and split splitting double. Whatever you ask with your foes and fists. You came for a quickness when you see me, you disappear. Slide the throat, I hope that you.
Jimmy, hey, can you relate? Remixé par Luke Vibert, le Anthem Remix, c'était sur le disque qui était sorti il y a 10 ans, pour les 10 ans de Warp. Et c'est aussi une petite programmation, un petit peu dans les incunables de la radio, pour le coup. Mon Dieu, mais du sport ? Deux bouquins, où nous emmènes-tu ?
Deux, carrément, ouais. Alors, je vous ai déjà parlé de cet auteur, James Salis, que j'ai découvert en allant voir le film Drive, puisque Drive est issu du bouquin de James Salis.
Et du coup, t'es devenu monomaniaque.
Et non, mais bon, enfin, bon, c'est ma façon de le lire, les auteurs, hein, de toute façon, quoi. Quand l'auteur est bon, il n'y a pas de problème, quoi. Il faut lire tout ce qu'il a fait, quoi. Et puis bon, généralement. Et en commençant plutôt par le début. Alors donc, voilà deux bouquins qui concernent un des deux héros récurrents de James Salis, qui avait écrit son premier bouquin sorti en 99, qui s'appelle La Mort aura tes yeux, mais un one shot exactement comme Drive, hein, alors qu'il a beaucoup écrit, enfin, sa plus grande somme de bouquins concernant un héros récurrent, c'est le héros qui s'appelle Lou Griffin, et dont il a écrit, je crois, 6 bouquins en tout, hein, les aventures de Lou Griffin, quoi. Donc, alors a priori on pourrait croire que c'est un petit peu comme on va dire chez Liane la paire Gennaro Kenzie où on prend toujours les mêmes, ou chez Michael Connelly l'inspecteur Harry Bosch, mais c'est pas exactement la même chose parce que le style de James Salis est radicalement différent et sa façon de narrer une aventure est complètement différente, et en fait ce n'est pas tellement l'histoire qui est importante, mais c'est plutôt toutes les fioritures et tout ce qui peut être, tout ce qui peut se passer autour et tout ce qui est dans les pensées des personnages, dans les dialogues, par rapport à la vie qui court, par rapport à des grands sujets de société, la description des endroits où ils se trouvent. Alors, il faut faire un parallèle avec James Lee Burke, parce que tous les deux parlent de la Nouvelle-Orléans, parlent de la Louisiane. Chez James Lee Burke, et son inspecteur Dave Robichaud, c'est plutôt la Louisiane, c'est-à-dire le Bayou, puisqu'il est situé dans une petite ville qui s'appelle Iberia, qui est pas loin de la Nouvelle-Orléans. Enfin, c'est quand même dans les bayous, enfin tout ça, à la campagne. Chez James Salis, Lou Griffin, lui, il est à la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire la ville qu'on connaît, hein, que tout le monde connaît, bien entendu, tourisme, le quartier français, nanana, et tout ça. Mais justement, James Salis, en décrivant et l'histoire de la Nouvelle-Orléans et la géographie actuelle et la géographie passée de la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire l'évolution de cette ville, eh bien, nous apprend vraiment énormément. C'est un bouquin d'histoire. T'as pas besoin de bouquin d'histoire. Tu lis du James Salis. Sur l'ensemble de son œuvre, je suis sûr que tu arrives à te faire une idée vraiment très précise de comment était la ville, de comment est la ville, les différents quartiers, enfin les quartiers touristiques, mais également les quartiers que bon, il vaut mieux pas visiter. C'est clair. Il y a des deux ou trois pages d'anthologie sur les rats et les cafards, quoi. Il dit ouais, de toute façon, on a la Nouvelle-Orléans, c'est les cafards qui boufferont tout le monde et tout. Des cafards, il y en a partout. Et de toute façon, tu regardes, s'il y avait une bombe nucléaire qui explosait comme ça, qui détruisait la Terre, le seul être qui résisterait, c'est le cafard, parce que lui a toujours résisté. C'est toujours le même depuis les dinosaures. Les cafards, ils ont pas changé, tu vois. Donc ils changeront pas non plus. Enfin bon, c'est vraiment savoureux. Alors, concernant le héros principal, Lou Griffin, là aussi, James Lee Burke, lui, fait de son héros Dave Robichaud, bon, on va dire un mélange, hein, Dave Robichaud un petit peu mélangé, quoi, entre un croisement entre un blanc et une indienne, il me semble, si je me souviens bien. Mais enfin bon, qui est quand même, on va dire, dans la norme, hein, puisque bon, bah le film qui est sorti de Tavernier et tout, quoi, c'est Tommy Lee Jones qui interprète le rôle, donc ok, hein, là,
ah ouais,
c'est oui, blanchi complet.
Dans la brume électrique.
Dans la brume électrique avec les cavaliers confédérés. Le titre original du bouquin, dans la brume électrique, c'est le titre du film. Là, bien, c'est Lou Griffin, c'est un black. Ok, on se dit, ouais, ça peut être pas mal et tout. Mais quand on sait que James Salis est un fan fou furieux de Chester Himes, qui est le plus grand auteur black de polar, ça, il y a pas photo, hein, ah de oui, toute façon, là-dessus. Qu'il a écrit une biographie sur ce mec-là, enfin qui est nettement plus récente, hein, vu qu'elle est sortie aux Écrits Noirs de Rivage, je crois il y a 2-3 ans seulement. Bon, ben on se dit, ça apparaît comme étant assez normal. Lou Griffin, alors est un type qui a plus ou moins fait l'armée, qui s'est fait enrôler parce que ben s'il n'allait pas à l'armée, il finissait au trou, quoi. C'est-à-dire, il a fait quelques petites conneries dans sa jeunesse, dans son adolescence, et puis on lui a laissé le choix. On lui a dit, écoute, soit tu pars à l'armée, soit on te fout au trou. Donc à l'époque, c'était une alternative. Et bon bah le gars il se dit ok, et puis comme c'est une armoire à glace, le mec fait 1m92 tout, qu'il est assez bien foutu, que ça va, faut pas l'emmerder, quoi. Donc tout se passe relativement bien, sauf qu'il fait le con, il picole pas mal, donc il se fait virer de l'armée et il devient détective privé. Et donc là le premier de cette série concernant Lou Griffin s'appelle Le Faucheux. Alors c'est assez rigolo de voir que tous les bouquins pratiquement de Lou Griffin, eh bien les titres sont des noms d'insectes ou d'assimilés, quoi. Le faucheux, ok, quoi, c'est un insecte, le truc qui ressemble à une araignée, mais enfin qui n'est pas une araignée parce qu'il y a ça que 6 pattes. Le suivant dont je vais parler, papillon de nuit, moth en titre original, hein, donc alors que butterfly c'est le papillon de jour. Ok, je suis toujours,
c'est très bien.
Oui, oui, oui. Et donc dès le premier, eh ben là déjà on prend une claque dans la gueule, parce qu'en fait c'est composé en 4 parties, et 4 parties réparties dans un temps qui est très très long. En fait c'est 4 enquêtes, ça s'appelle Le Faucheux, 4 enquêtes de Lou Griffin, hein, le titre. Et dans chaque partie, bien, en tant que détective privé déjà, il ne fait pas ce que fait un détective privé tel qu'on a l'habitude de les connaître, qui sont embringués dans des histoires pas possibles avec des gangsters, des trucs et tout. Non, là c'est plutôt un type qui, dont la spécialité, on va dire, mais à son corps défendant, et de retrouver des gens qui ont disparu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent le voir, qui disent « Oui, ma fille a disparu, oui, telle personne a disparu, est-ce que vous pouvez faire une enquête pour la retrouver ?» Point. Et ça s'arrête là. Et c'est au cours de ces pérégrinations que, bon, bah, il va être confronté à des gens pas forcément recommandables. Et comme il a une connaissance vraiment
très approfondi de la ville et des habitants de la Nouvelle-Orléans, qu'il a une acquaintance avec un flic de la police criminelle, qui est un de ses meilleurs potes de toute façon, qui est blanc lui, eh bien les choses se passent relativement bien. Alors dans ce premier bouquin, eh bien il va donc enquêter 4 fois, mais à 4 moments bien distincts. La première enquête est située en 1964, il est très jeune, il vient de sortir de l'armée, il vient de sortir du truc, de se faire virer, il vient de s'installer comme inspecteur. Ensuite, la deuxième, où là il recherche une jeune nana black qui s'appelle Corinne Davis, et qui est en fait une étudiante qui vient du Nord, qui vient de Chicago, et qui est une des passionnariats du mouvement pour les droits civiques. À l'époque, en 64, c'était pas évident du tout.
Oui, c'était pas très fashion.
Alors, on ne sait pas ce qu'elle est venue faire à la Nouvelle-Orléans. Les gens qui devaient l'accueillir à l'aéroport, ben, hop, elle a disparu. Ils savent pas ce qu'elle est devenue. Donc, voilà. Alors qu'elle avait vraiment l'air d'être une nana étudiante, rangée, une vie normale, pas de dope, pas de petits copains, rien. Enfin bon, toute dévouée à sa cause et à son boulot. Ok, ben, d'accord. La deuxième, en 70, donc déjà un bond de 6 ans. Plus tard, où il cherche une certaine Cordelia Clayson, une petite fille, une adolescente, on va dire, de 15-16 ans, qui a disparu et dont les parents ont envie de savoir ce qu'elle est devenue. Ensuite, en 84, là, un bond de 14 ans, carrément, pour rechercher Cherry Smith. Et on arrive à la quatrième enquête, en 90. En fait, ce n'est pas vraiment une enquête, parce qu'elle est en fil rouge lors des 3 précédentes. On se rend compte que Lou Griffin a été marié, mais s'est très vite séparé de sa femme. Vit plus ou moins pas vraiment à la colle, mais quand de temps en temps il a envie de faire hop là, sa meilleure copine, c'est une nana qui est une pute et qui de temps en temps ils passent la nuit ensemble, mais bon sans argent quoi, parce qu'ils sont très bons amis et puis que bon ils ont une communauté d'intérêt, une communauté d'esprit, on va dire, qui fait qu'ils aiment bien se retrouver de temps en temps. Mais cela n'empêche pas Laverne, comme elle s'appelle cette nana, d'être une vraie prostituée, quoi. Black également. On en apprend au fur et à mesure, un petit peu plus sur sa vie personnelle, ses rapports avec ses parents, son père qui a été absent, qui partait très souvent, sa mère, parce qu'à un moment, assez vite, on se rend compte que son père va mourir, donc est-ce qu'il va venir le voir pour qu'il lui délivre ses dernières paroles et tout. Ben non, il a pas le temps, il est sur une enquête. Enfin bon, c'est vraiment des rapports qui sont vraiment ambigus, entre des rapports familiaux très ambigus, et la dernière enquête, en fait, elle concerne son fils qui a fait plus ou moins sa vie, est remonté dans le Nord faire des études à New York, mais est parti sur Paris et là a disparu. Et j'allais dire James Salis, mais Lou Griffin va essayer de retrouver donc son fils disparu, non pas en se rendant à Paris, mais en correspondant avec une ancienne copine qu'il avait connue, qui était française qui l'avait un petit peu sauvé, on va dire, parce que son alcoolisme était devenu prépondérant et donc l'avait fait sombrer dans le delirium tremens. D'ailleurs, la troisième enquête s'ouvre par son réveil à l'hôpital. Après une crise de délirium, on l'a bourré de médicaments et tout, il sait plus où il en est, il est intubé de partout, et puis il est à la ramasse complet. Et donc, il y a une infirmière qui commence à sympathiser avec lui et tout, il s'avère que c'est une infirmière qui est française, et ils vont vivre une belle histoire d'amour, mais elle va rentrer en France à nouveau, parce qu'elle comprend pas très bien comment les gens de la Nouvelle-Orléans réagissent. Bref, c'est absolument savoureux, c'est très très bon, on voit que Salis est un très très bon auteur, que c'est un mec qui sait bien écrire, et qui adore la littérature en général. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est pas vraiment du polar pur et dur. Il y a de tout dedans, quoi. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Juste un petit extrait de ce faucheux. De deux choses l'une, ou nous n'existons qu'à travers les liens que nous réussissons à créer, ou alors nous nous en persuadons pour réussir à les créer. C'est ainsi que nous nous efforçons de ne pas simplement survivre, mais de nous trouver des raisons, de l'amour par exemple, qui nous permettent de nous abuser, de nous donner l'illusion d'avoir choisi la survie. Tu vois, quand t'as des trucs comme ça dans un polar, tu dis et il y a pas que ça, c'est-à-dire que par exemple dans Papillon de nuit, quand je vous avais présenté Drive, je vous avais parlé un petit peu de Salis, vous avez dit que c'est un mec qui a traduit en anglais l'ensemble de l'œuvre de Raymond Queneau, donc Zazie dans le métro et tout ça. Et dans le deuxième Papillon de nuit, donc là c'est énorme, parce qu'il y a carrément tout un chapitre qui est pas très long, quand même, qui fait 4 pages, où il ne parle que de Queneau, qui n'a rien à voir avec l'histoire, hein, où il dit, bon, Queneau dit un jour que pratiquement tout le monde est capable de déplacer des personnages de lieu en lieu et de situation en situation, de les pousser de page en page comme des moutons jusqu'à parvenir finalement à quelque chose que les gens liraient comme un roman. Mais Queneau lui-même voulait que les personnages et leurs relations, les uns et les autres, à l'histoire et à la pensée humaine dans toute leur ampleur, ainsi qu'au livre en soi, soient structurés. Il voulait que ces relations soient construites au sens le plus pur du terme. Bref, il voulait quelque chose de plus. Enfin, tu vois, quand le mec il te sort des trucs comme ça, tu dis bon, c'est pas mal, quoi. C'est assez intéressant. Il continue toujours sur la littérature. Hein, lorsque tout me paraît, alors là c'est Lou Griffin qui parle parce que bon, le roman est toujours à la première. C'est le narrateur est Lou Griffin. Hein, lorsque tout me paraît soudain, absolument et irrémédiablement insoluble et que le désespoir me submerge, je relis Thomas Bernhard. Ça me remonte toujours le moral. Personne n'est plus amer, personne n'a jamais vécu dans un monde plus morne que Thomas Bernhard. Enfin, tu vois, devant le mec, il est là et puis il te sort des trucs énormes. Ou Lou Griffin, donc, a une évolution aussi professionnelle parce que, à la fin, au bout de la 4e histoire du faucheux, eh bien, il arrête d'être enquêteur parce que bon, il est complètement dégoûté de la vie et tout, il se rend compte que bon, c'est pas vraiment la solution. Et il se met à écrire. Alors c'est assez intéressant la mise en abîme qu'il peut y avoir parce que bon bah il commence à écrire un bouquin sur plus ou moins sa vie imagée, enfin ses histoires passées, donc il écrit un bouquin à un policier qui s'avère avoir du succès pour un premier roman, ce qui lui permet d'arrêter d'être détective privé et de profiter de son aura et de sa notoriété pour aller enseigner à la fac la littérature, donc surtout la littérature française, tiens, comme par hasard.
C'est un peu autobiographique.
Non, ouais, non, mais c'est ça. C'est il y a des mises en abîme, des trucs qui sont assez incroyables, mais c'est vraiment très très bien ficelé de telle manière à ce que tu te dises pas, bon, bah, ok, c'est du copier-coller, c'est je prends la bio de James Salis et puis c'est bon, quoi, j'ai tout compris. Non, 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 c'est vraiment très très bien ficelé, ça s'enchevêtre comme ça, quoi, de façon très très habile, et c'est ce qui fait vraiment la patte du maître. Et bon, justement, je termine avec ça, début du chapitre 3, comme je le dis toujours à mes étudiants, le véritable protagoniste du roman est le temps. Au cours des années, il m'est devenu plus facile de dire ce genre de choses sans immédiatement éprouver le besoin de regarder derrière moi et de fixer le plancher. Enfin bon, voilà. Quoi.
C'est encore une mise en abîme du coup du bouquin.
Tout à fait, tout à fait, tout à
pas
fait.
Pas mal.
Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Très, très bien, hein, James Salis, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Donc, soit, bon, bah, comme je vous avais dit la dernière fois, bon, balancez-vous dans Drive, parce que bon, Drive, c'est vraiment un petit polar nerveux, bien rentre dedans. Très court, hein, même pas 200 pages, donc ça le fait très très facilement, quoi, qui explique un petit peu mieux par rapport au film ce qui se passe et vraiment quelle est la personnalité du chauffeur. Bref, je vais pas revenir dessus. Et par contre, là, dans les enquêtes de Lou Griffin, là, bah, c'est vraiment quelque chose de plus dense, quoi, mais qui part un petit peu dans tous les sens, mais qui n'est pas complètement explosé. C'est-à-dire, il y a quand même de la contenance, hein, c'est quand même très 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 bien ficelé, quoi. Donc c'est James Salis Le Faucheux et James Salis Papillon de Nuit. C'est les deux premiers, donc, consacrés à Lou Griffin dans la collection, chez pas cher, hein, Folio Policier, en souple, ça suffit largement.
Elle est midi 13h12, voilà, c'est ma faute. Zou, allez. Oui, 13h12. Non, ça fait quoi?
Non, il faut changer les piles.
Ah, je sais pas, mais en tout cas,
certainement.
C'est la partie de Thomas.
Et oui, aujourd'hui on parle du film Les Lyonnais. Alors,
Donc c'est un film d'Olivier Marchal avec Gérard Lanvin, Tchéky Cario, Daniel Duval, ouais. Lionel Astier, ouais. Simon
ah ouais.
Astier,
ouais.
François Levental.
C'est normal, c'est des Lyonnais.
Eh ben oui.
Des vrais.
Et l'inévitable Francis Renaud, puisque nous sommes chez Olivier Marchal.
Obligé.
Alors ça raconte, donc c'est l'histoire d'un gang de braqueurs soupçonnés d'avoir versé des pots de vin aux Croates dans une affaire de Paris truquée. Et désormais la cible des Espagnols, ils n'ont plus d'autre choix que...
Thomas là, oh.
Ouais.
C'est, ça c'est mon conducteur de Sassé Disport ça.
Ah merde.
C'est pas le même attends. Là.
Pardon.
Voilà, c'est ça.
Ok. Erreur. Pardon, alors, excusez-moi, je change de fond.
Rewind.
C'est quoi ce fond là?
Luis Mariano, cool.
Une erreur, un truc est parti tout seul, j'aurais pas dû.
Très bien. Alors, depuis sa jeunesse passée dans un camp de gitans jusqu'à aujourd'hui où il vit retiré des affaires en passant par les années 70, où il connut la gloire en braquant des établissements sans violence avec son gang des Lyonnais, Edmond Vidal, dit Momon, est toujours resté fidèle à ses principes, une loyauté sans faille et le respect du code d'honneur. Mais lorsque son vieil ami Serge Sutel, donc incarné par Tchéky Cario, réapparu de nulle part, est emprisonné à la merci de gangsters qui veulent lui faire payer ses dettes d'honneur, Momon doit choisir entre sa parole donnée à sa femme Janou de ne plus enfreindre la loi et venir en aide à son très vieux frère d'armes. Alors, Olivier Marchal, donc c'est l'ancien flic, hein, mais c'est plus que ça, hein, mais c'est l'ancien flic, voilà, catalogué, voilà, lui il fait les trucs, il est ancien flic, donc il fait des trucs de polar, voilà. Donc, il y a trois époques dans le film, donc il y a les flashbacks d'enfance, puisqu'il a connu Momon, donc Charles Lanvin a connu Serge quand ils étaient gamins. Ensuite il y a les années 70 inspiré des mémoires du livre autobiographique d'Edmond Vidal qui a vraiment existé, qui était donc à la tête de ce gang de braqueurs, et aujourd'hui c'est la partie, on va dire, à laquelle se rattache plus Olivier Marchal, c'est-à-dire voilà, des hommes qui ont vieilli, qui ont toujours un code d'honneur, et cette partie est fictive. En fait la vie d'Edmond Vidal a basculé le jour où il s'est fait coffrer avec son ami Serge pour un vol de un cajot de cerise, et le
vraiment
flic,
pour des queues,
voilà, et le flic qui les a arrêtés a voulu leur faire payer, comme ça ils ont servi d'exemple, donc ils ont été marqués par la prison, et ils sont ensuite enrôlés, Momon s'est ensuite enrôlé dans un gang de braqueurs, et il a fait venir aussi son pote Serge ensuite dans son sillon. C'est comme ça qu'est né le gang des braqueurs lyonnais, puisqu'ils ont ensuite monté leur propre gang au passage, après avoir raccourci quelques têtes pour se protéger eux-mêmes. Donc j'en ai parlé du casting en or massif. Il y a pas tortillé. Alors à l'origine, alors quand on voit le film, moi je me suis dit, je ne voyais personne d'autre dans ces rôles-là. C'est-à-dire Lanvin, le mec solide, c'est un peu le rôle qu'il avait quand il était le garde du corps dans Le Goût des Autres de Bakri et Jaoui. C'est-à-dire c'est le mec, bon voilà, c'est le gars à poigne, le mec bourru, brut de décoffrage, mais c'est pas un traître quoi. C'est le gars. Droit dans ses souliers, code d'honneur, voilà, à qui on la fait pas. Donc Lanvin c'était l'homme idéal, et dans le rôle du gars qui revient un peu foutre le bordel, parce que bon, le mec, on voit qu'il a eu une part d'ombre après, qui a perdu de vue un peu ses amis, donc Tchéky Cario a plus habitué à des rôles de méchant ou des rôles un peu fourbes.
Ouais,
il a vraiment
psychopathe quoi.
Voilà, là il a vraiment le, alors il est bien buriné, il a aminci comme jamais. À un moment donné, on le voit torse poil et tout, en train de régler quelques comptes. On voit le Tchéky Cario utilisé avec son regard de un peu de fou furieux. On voit que c'est le gars par qui ça va déraper quoi. Mais c'est pas le gars qui fait déraper les trucs. C'est pas la gâchette facile quoi.
C'est la fallure.
C'est
la
voilà, fallure. Ouais. Voilà, c'est le gars qui rappelle, qui est pas incontrôlable, mais quand même qui est un peu à part quoi. À l'origine, j'étais très surpris, le rôle de Lanvin avait été proposé à Alain Delon, Alain Delon. Alors il a quitté le projet pour divergence d'écriture. C'est marrant parce
comment
que...
Comment ça, je ne suis pas le héros? Comment ça, il y a une connerie à cause de moi? Comment ça, c'est pas possible?
Alors c'est marrant, non,
je vais voir des filles fraîches.
Non. Alain Delon devait jouer le rôle de Lanvin. C'est-à-dire le gars costaud, le gars pétri de code d'honneur. Donc c'est pas la première fois qu'il abandonne une aventure cinéma, puisque la dernière fois qu'il avait fait ça, c'était pour le film de, tiens, Alexandre Astier. Ah, les Astier, là, je pense
pour que
Delon joue à nouveau avec eux, je pense qu'il va falloir que l'eau s'écoule sous des ponts, là, je pense. Et le rôle de Chicky Cario avait été proposé à Bernard Giraudot, auquel le film est dédié, puisqu'il est, mort entre-temps. Mais ça aurait été curieux de voir Giraudot dans ce rôle-là.
Ah bah oui, il avait sa place, hein, de toute façon.
Voilà. Donc moi franchement c'est j'étais allé voir également le film avec Louise Bourgoin sur justement la natalité et tout, mais c'était très rare ça faisait très longtemps que j'étais pas allé voir un film français plutôt un film de genre comme ça mais c'est vrai que tu es happé bon. Des fois, tu te dis, bon, casting normatif, casting français, ils ont quelque part toujours un peu la même façon de jouer. Et là, c'est vrai qu'on n'évite pas certains écueils, c'est-à-dire on est des gangsters, donc on fume 4 clopes par scène, on a le verre de whisky, le gars qui prend la mine, la mâchoire, il sert les maxillaires, et puis ouais, je tire une taf, je bois un verre, je tire une taf, je dis ma réplique, je tire une taf, je souris, non, je souris pas, je tire une taf. Allez, cut, le gars en face, contre-champ, je tire une taf. Bon, voilà, ça c'est le film français, voilà, gangster, c'est un peu ce qu'on avait vu aussi chez le Ennemi Public numéro 1. Bon, voilà, c'est... Ça passe. Franchement, Olivier Marchal, moi j'adore ce type, j'avais découvert dans Police District. Ensuite, 36 Quai des Orfèvres, bon, c'est le film... faut pas être suicidaire avant, quoi. Braco... prends ta claque, mais c'est vraiment très ancré The Shield. Tu prends vraiment ta claque. Alors, je rétablis une vérité dans cette émission, puisque du sport m'avait fait remarquer que Marshall, non, il avait produit juste Braco, il était de loin. Non, petit monsieur, il a réalisé quelques épisodes de la série, j'ai vérifié sur internet. Donc,
voilà. De la première saison, je crois pas qu'il intervienne sur la
deuxième. Voilà, sur la première saison, il a réalisé la moitié des épisodes à peu près, ou en tout cas plus d'un tiers, et la fin de la série a été réalisée par Schoenderfer. Mais la réalisation, yes, voilà, ouais. Marshall a vraiment mis la main à la pâte.
Alors ça, c'est fait.
Alors c'est marrant parce que c'est la première fois que justement Olivier Marshall est du côté des gangsters, puisque il expliquait dans une interview que j'avais lu aussi.
Mais tu oublies son premier film.
Oui, voilà, Gangster. Tout à fait. Mais il a plus ou moins renié aussi avec Pario et Anconina, puisqu'on avait mis des bâtons dans les roues. C'était pas le film qu'il voulait faire. Mais effectivement, c'était Gangster. Entre temps, il s'était plus attaché à décrire des quotidiens de flics, puisqu'il disait excusez-moi de faire toujours des films de flics, mais à un moment donné, j'ai voulu écrire des scénarios de histoires d'amour, j'y arrive pas. À chaque fois, ça se passe toujours. On revient aux flics et en même temps il a été, et puis il dit excusez-moi, mais j'ai tellement été marqué à vie par mon ancienne carrière, et j'ai tellement de trucs à raconter qui sont au fond de moi, je peux pas m'en empêcher, je suis obligé de déverser, quoi. Et là c'est marrant parce qu'il est du côté des gangsters, mais on pourrait dire que ce sont des flics, c'est du pareil au même, c'est-à-dire même code d'honneur. Les flics dans le film, c'est, il y a aucun pourri, c'est que des mecs, et ça rappelle justement, ça m'a rappelé Hit. Justement, le rôle du chat et de la souris, bon là c'est moins extrême, c'est moins déjà le gangster est retiré des affaires, le flic essaie de mettre c'est lui qui a emprisonné Serge Chotel, donc Chicky Cario, et qui lance le film, qui lance l'intrigue, mais on voit que ce sont deux hommes qui se respectent. Ils se sont connus dans les années 70. Le flic, le chef de l'enquête actuel, était un jeune débutant à l'époque. Il lui dit, tiens, quand je t'avais rencontré, moi je t'admirais et tout, t'avais ta parole, etc. T'étais un peu pas mon idole, mais bon, voilà. Et tu vois qu'il y a une relation de complicité, de respect surtout entre les deux hommes. Et surtout que, à un moment donné, donc le gars, il vient pour arrêter carrément Lanvin, et puis il lui dit, bon, voilà, t'as trempé dans ce règlement de compte là. Si je prends ton arme là, et si je vois des traces, enfin que la balle a été tirée de ton arme, c'est bon, tu prends quoi. Et puis l'autre il dit, ok, je vais dans ton bureau quand tu veux, tu me laisses 2 jours. Alors j'ai encore des affaires à régler là. Une scène sans parole. Il parle, enfin il y a un peu de parole, mais il parle plus de l'affaire. Il dit, bon, je t'offre un café, ok, sucre. Voilà, il se regarde et tout. Ok, 9h dans 2 jours. Sinon après, 1 minute de retard, ça fera autant d'années en plus en prison. Et cette scène, elle est magnifique parce que tu comprends tout. Tu vois que le Olivier Marchal, il s'est laissé happer par ce récit autobiographique d'Edmond Vidal pour y coller ses propres obsessions aussi. Voilà, tout ce qui est à base de traîtrise. Parce qu'en fait, si ce gang de Lyonnais est tombé, c'est parce que quelqu'un les a vendus. Et je ne dévoilerai rien, mais un petit peu le fil rouge discret du film, c'est qui les a balancés aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment le torsion du code d'honneur.
C'est qui déjà le chef de la police de Lyon qui avait fait tomber le gang des Lyonnais? Je crois que c'est quelqu'un qui est dans l'actualité en ce moment.
Je sais pas.
Non. Et pas question là en ce moment d'un super flic qui aurait. Non,
je crois pas que ce soit lui. Non, il était un petit peu jeune, hein, me semble-t-il, quoi. Mais Michel Néret, en plus, dont tu parles, est défendu par Olivier Marchal.
Ah oui, largement, puisqu'ils sont connus professionnellement. Hein.
Ils sont, enfin, un petit peu, quoi. Un petit peu, quoi.
Et quand tu vois l'actualité, on croirait vraiment que c'est un personnage d'un de ces films, en plus.
Alors, moi, je trouve que c'est quand même relativement ambigu parce que quand on voit. Quand on voit Olivier Marchal parler de ses films, et puis bon, ça date pas d'hier, hein, je veux dire, depuis le départ. D'après son expérience professionnelle, bon, bah, c'est vrai qu'il a une certaine nostalgie de cette époque où il y avait cette espèce de, entre guillemets, code de l'honneur. Mais d'un autre côté, il a toujours dit que, en fait, ce code de l'honneur n'a que rarement existé. Hein, que c'était vraiment le fait de quelques individus, mais qu'en général et tout, si un mec pouvait baiser un autre pour sauver sa peau, pour ramasser un peu plus de pognon, il le faisait sans état d'âme, de toute façon, quoi. Et que bon, bien sûr, c'était plus vrai encore de nos jours, de toute façon, quoi. Alors c'est pour ça que bon, c'est un petit peu cette ambiguïté qui maintenant, on va pas dire me gêne un petit peu, quoi, parce que bon, ça restera certainement un très très bon film, hein, ça y a pas de problème, hein, que j'irai le voir, hein, certainement que ça va bien me plaire. Mais enfin bon, c'est ce petit côté-là qui est un petit peu ambigu, quoi, chez Marchal, quoi. Alors bon, après, bon, hein, c'est lui, hein, c'est son truc.
Oui. En tout cas, c'est un film qui ne révolutionne rien, mais quand tu passes un moment sur grand écran devant ce film, tu n'as pas un côté glauque qui te pète à la gueule comme c'était le cas de Francis Cabrel Orfèvre. En fait, tu regardes ce film et tu sors et tu as l'impression d'avoir été avec des potes dans un moment très chaleureux. C'est-à-dire c'est l'aspect chaleureux du film qui te saute au visage, qui on voit que ce sont déjà des acteurs qui ont pris plaisir à jouer ensemble et tu te prends de sympathie pour ces personnages-là et tu sens une ambiance t'envelopper, tu te sens bien après le film. Alors après, c'est sûr que ça véhicule aussi des pensifs, c'est-à-dire les anciennes gueules du gang des Lyonnais qui ont été l'objet de d'interrogatoires assez musclés à l'époque et tout. Ils sont un peu revenus de tout, ils ont fondé chacun une famille, c'est des anciens gitans, hein, donc c'est très familial. Le film s'ouvre sur une scène familiale, une espèce de grande réunion de famille pour célébrer je sais plus quoi d'ailleurs. Ça rappelle vraiment l'introduction du Parrain. En plus, c'est vraiment bon, t'as pas le côté italien derrière, mais t'as le côté Racine. Tu vois tous ces acteurs là avec la poitrine, les chemises dépoitraillées, torse velu, les tatouages sur les bras, la clope au bec, le verre de whisky d'un autre, avec la famille qui suscite le respect de tout le monde. À un moment donné, quand il y a machin, il s'est fait arrêter, et là t'as les femmes qui ont le regard noir et tout. Ouais, chérie, là je vais devoir abandonner la cérémonie et tout. Ouais, je prends la mine grave et tout, et puis après ils se retrouvent tous avec leurs chemises bien brillantes et tout. Ouais, alors qu'est-ce qu'on fait? Ouais, non, mais j'ai juré à Janou, non, je le replonge pas. Ouais, mais bon, on peut pas le laisser comme ça et tout. Et alors, t'as vraiment les discussions avec, t'as toute la clique Lionel Astier, t'as Lanvin et tout. Alors, c'est un casting qui est vraiment homogène, hein. Tu sens que ils auraient très bien pu être potes avant. Entre eux et ça fonctionne très très bien cette alchimie, voilà. Donc encore une fois, voilà, ça révolutionne rien, mais voilà, tu prends plaisir, tu dis bon voilà, tu sais très bien que t'es venu pour ça sur grand écran pour voir ça, t'es pas grugé, quoi, voilà. Tout au long du film, tu sors jamais d'histoire, tu te dis pas ouais bon là quand même c'est un peu gros, non c'est coulé, c'est un film très très maîtrisé, puis ça fait plaisir de voir Marchal qui laisse un peu son côté un peu noir et tout pour se poser et puis offrir un bon film chaleureux, quoi, voilà. Bon, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir devant ce film.
Les Lyonnais, voilà, film d'Olivier Marchal. En plus, c'est beaucoup plus moins exubérant que le diptyque consacré à Mérine. On voit que c'est plus adulte. Et c'est voilà, moi je fais mon film là. Moi je suis l'ancien flic et tout.
Laissez parler celui qui a côtoyé la criminalité. On va vous montrer ce que c'est vraiment.
Voilà. Donc Les Lyonnais, réalisé par Olivier Marchal avec Gérard Lanvin, Chiqui Cario, Daniel Duval, Lionel Astier, François Levental, Francis Reynaud et j'en passe. Très très bon film. Voilà. Et puis j'ai pas regardé vraiment les nominations des Césars. Ça me surprendrait qu'il n'y ait pas de quelques noms de ce film qui soit attaché à la cérémonie, mais bon, on sait jamais, le film de genre.
Ouais,
le
film de genre, j'allais dire. Voilà. Mais bon. Quoique, Un Prophète,
C'est vrai.
Ouais, mais bon, c'était Jacques Audiard aussi, donc, voilà. Mais bon, voilà, Lanvin, à cet âge-là, actuellement, aujourd'hui, bien. C'est,
Ok. Bref. Il en est très satisfait, Les Lyonnais. Et ça change du 7-1 face à Zagreb. Donc y a pas à dire. 13h28 sur la poubelle des radios. Et c'est le super week-end. En 298. Et de suite, oh nom de Dieu, ma foi. Mais dans quoi zappons-nous?
Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours. Et on aime toujours ça. C'est la loi des séries.
Voilà, pour les petits jeunes qui ne savent pas, c'est le thème de Falcon Crest.
Excellente série.
Oh non, ça y est, c'est parti.
Ça vaut pas Savannah, mais bon...
Non, s'il te plaît, s'il te plaît.
Alors, eh bien, il y a de la nouveauté en série, et ce n'est pas sur une grande chaîne.
Pas possible.
Ah ouais, eh ouais. Alors tu vas me dire, si c'est une filiale de TF1, désolé.
Alors tu parles de la chaîne, tu parles de Eurosport.
Non, pas du tout, non.
Non, ça va passer avec la Ligue des Champions, on sait jamais.
Ça va passer sur TMC ce soir, et ça a l'air d'être vraiment très très alléchant. Je suis carrément allé sur le site, carrément officiel, tu vois, quoi, parce que bon, je me suis dit, wow, ça va. Ça s'appelle Downton Abbey. Alors c'est créé par Julian Fellowes et c'est relativement récent vu que on va voir une série qui a été diffusée pour la première fois l'année dernière, à pratiquement la même époque, en septembre, sur la chaîne anglaise ITV. Donc
oui, sur l'équivalent TF1 en Angleterre.
Ok.
Voilà.
Ok. Et attention, c'est du lourd. Production anglaise, $1 million l'épisode. Parce que c'est toujours dollar, c'est même pas livre sterling, tu vois. Quand ils disent $1 million.
Non, ils ont pas voulu passer à l'euro, ils sautent direct au dollar.
Voilà, donc ok, déjà tu te dis ah d'accord, c'est un film en costume et ça se comprend. L'histoire, elle est très simple, ça raconte l'histoire d'une famille aristocratique au début du siècle dernier. Ça commence en 1912 et ça nous raconte l'histoire de la lignée des comtes de Grantham. L'histoire commence par un événement très fameux. En effet, c'est une histoire de filiation qui est interrompue. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un accident vient d'arriver et que le neveu qui devait hériter du titre de comte de Grantham et de la fortune et de la gestion de tous les biens, bien entendu, meurt parce que il a pris un bateau qui s'appelait le Titanic.
Simplement. C'est bête.
C'est con. Et donc
Costa.
Cette série qui s'appelle Downton Abbey, va nous narrer ce qui va se passer, les luttes de pouvoir, les grosses magouilles qui peuvent arriver dans une famille aristocratique à la veille de la Première Guerre mondiale, car la série est supposée s'achever à la veille de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire 2 ans plus tard, en 1914. Alors, casting d'enfer. Alors bon, déjà au niveau des costumes, on a carrément tourné dans un vrai château en Angleterre, enfin bon, pour les décors naturels, sinon le reste, studio à Londres et studio de Ealing, là où ont été tournés les deux derniers James Bond, d'ailleurs, en partie. Et au casting, rien à dire. Maggie Smith, comtesse douairière de Grantham. Maggie Smith, c'est quand même 2 Oscars, 2 Golden Globes. C'est Minerva dans Harry Potter.
Ah,
Ah oui, oui, là.
Minerva McGonagall.
Ah oui, c'est la chouette, là. Enfin, la,
voilà, voilà, voilà. D'accord. Alors, elle a, elle est là. Elle, bon, hein, c'est la comtesse Boirière, donc, forcément, la plus vieille du lot et tout. Elle a commencé, j'ai regardé, en 58, son premier film.
Wow.
On la voit dans Meurtre sur le Nil, dans Meurtre au Soleil, dans Mort sur le Nil, dans Le Choc des Titans. La version de 81, dans Chambre avec vue, c'est là qu'elle a obtenu un Golden Globe, le film de James Ivory en début des années 80. Elle joue également dans Le Hook de Spielberg. Ça, c'est pour les films les plus connus, hein, je veux dire, parce que bon, bah, le restant de sa carrière, je parle même pas du théâtre, laisse tomber, hein, ça va bien. Outre Maggie Smith, donc la maman qui chapeaute tout, il y a Hugh Bonneville, donc qui est le comte de Grantham, donc Hugh Bonneville. Qu'on a vu dans, ben justement, on parlait de James Bond, on le voit dans le dernier James Bond avec Pierce Brosnan, Demain ne meurt jamais, en 97. On le voit dans Coup de foudre à Notting Hill, qui passe d'ailleurs lundi soir à la télé sur M6, dans Stage Beauty avec Billy Crudup, Claire Danes, c'est l'histoire d'un acteur masculin à l'époque de Shakespeare. Il y avait juste les hommes qui pouvaient jouer le rôle de femme, et c'est l'époque où le roi décide que les femmes peuvent également jouer, donc ça va. Enfin bon.
C'était pas de Meurt un autre jour, le dernier James Bond avec Pierce Brosnan.
Die another day.
Oui, il me semble. Hein.
Ah bon. Ouais, je sais pas quoi. C'est possible. C'est possible.
Ouf. Ouais. Alors. Ouais. J'ai niqué du sport.
Ça se fait, c'est pas arrivé depuis 298 numéros.
Alors, Hugh Bonneville, on le voit également dans cette excellente série qui avait été diffusée, je crois, sur une chaîne française, mais comme ça, mais vite fait, quoi, qui s'appelle The Vicar of Dibley, une série dans laquelle Dawn French, vient remplacer, le vicaire, c'est-à-dire le prêtre d'une petite paroisse. Alors, tout le monde s'attend à un mec et tout, celle qui débarque, et puis bon, elle est pas franchement, dans la pensée
oui,
puritaine.
On est
Dawn French.
On
quoi,
est dans l'église anglicane. Hein,
ok.
Voilà.
Elle joue. Hugh Bonneville joue également dans le dernier John Landis, qui est un film anglais, hein, qui s'appelle Cadavre à l'appel, où on retrouve également Simon Pegg, Andy Serkis, Tim Curry, Christopher Lee. Enfin,
ouais. Ah ouais. D'accord. Okay.
Ah ouais. Ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant comme film. Film qui est sorti l'an dernier. Hein, pas entendu parler du tout. Hein, le dernier John Landis.
Hein,
qui raconte l'histoire de à Édimbourg, quoi, de deux mecs qui avaient l'habitude de déterrer les cadavres pour servir
pour
des expériences, voilà.
Si, il est sorti en France mais sous un autre nom.
Oui.
Il est sorti en début de l'année dernière, oui.
Voilà. Alors Hugh Bonneville, donc sa femme est interprétée par Elizabeth McGovern. Alors elle, bon, bah c'est une actrice américaine, hein, qui a joué dans Ragtime, qui a joué dans Il était une fois l'Amérique, dans Le Choc des Titans, la nouvelle version 2010, et qu'on voit dans un tout petit rôle, mais vraiment très bref, dans Kick-Ass. C'est elle qui joue la maman de Dave Lizeski.
D'accord.
Dans la maman qui est morte, quoi. Donc, mais tu la vois juste dans le flashback. Petit rôle, alors. Ouais, juste dans le flashback, quoi. Tu sais, quand tu la vois crever, en fait, quoi. Alors ça, c'est la classe des dirigeants, on va dire, du côté. Il y a également tout un casting énorme, quoi, concernant, tous les serviteurs, et les gonzesses. Et il y a surtout Brendan Coyle, qu'on a surtout vu pour un rôle récurrent qu'il avait dans Prime Suspect, suspect numéro 1, avec Helen Mirren. Où il joue également un ou deux, il a joué dans deux épisodes de Inspector Linley Mysteries, dont je vous ai également parlé, hein, avec Nathaniel Parker et Sharon Small. Voilà, donc alors ça démarre ce soir. Alors les saisons ne font que 7 épisodes. Il y a eu 2 saisons qui ont déjà été diffusées, et comme ça marche, que ça cartonne à fond les manettes, 4 nominations aux Emmy Awards quand même. Hein,
quand même, chez
les Américains. Oui. Une saison 3 est en cours de tournage, donc c'est cool, quoi. Alors Julian Fellowes, qui a créé cette série, c'est également scénariste du film Gosford Park. Ça va, quoi. C'est ce soir sur TMC, donc avec 4 épisodes à la suite. Donc,
allez, bam,
Boomba, vas-y, quoi. Donc
combo.
Vive le disque dur.
Ouais. Ok, donc c'est ce soir. Sinon, on a également Dark Blue, la saison 2 inédite, donc qui démarre demain soir sur Série Club.
Ah oui, la fameuse série qui n'a rien à voir avec le film.
Avec Dylan McDermott dans un des rôles principaux, une histoire de flic infiltré. Et donc 21h30, parce que on diffuse le dernier épisode de la saison 1 juste avant, pour faire un petit peu le lien et le suspense avec le cliffhanger de la fin de saison et tout quoi. Sinon TF1 nous diffuse royalement la saison 2 inédite de V, la nouvelle version.
Ah.
À 23h15.
Ouais, ouais, qu'ils se faire foutre. Hein.
À 23h15 le samedi, le mardi.
Le mardi en plus.
Ouais, ouais, ouais. Très bien les mecs. Bravo.
Bon, au moins ce sera pas décalé par le foot. Mais
bien joué, bien joué.
Ah, oh, mais quelle bande de cons.
Bah ouais, c'est comme ça quoi. Bah pour une fois c'est pas moi qui le dis, tu vois. Ah, oui, ça fait plaisir. Et sinon, bien on a un téléfilm qui est également une série, on va dire, hein, puisque c'est une série en 8 épisodes, mais de téléfilm tiré d'une bande dessinée de Jean Van Hamme qui s'appelle 13, Rani.
Ah non.
Pardon. Rien à voir, Rani.
Oh, c'est un vieux truc. Ça, oh, c'était oui, un truc qu'il avait fait, qu'il avait fait dans les années 80, si je me trompe, dans la collection Repérage chez Dupuis, c'est ça?
Ah, peut-être, hein, peut-être. Si tu le dis, quoi. Et là, c'est lui qui fait également le scénario, donc bah, de cette série.
En général, avec, c'est lui qui signe les adaptations.
Avec ouais. Huguette Marien, Rani, c'est Rani chez les Indiens. En fait, c'est la femme du Raja. Mm. D'accord.
Okay. Huguette, c'est sa femme, si je me trompe.
Donc, bah ouais, il rebondit toujours, hein, c'est incroyable. Alors, interprété dans le rôle principal de Rani, donc, par Mylène Champagnol, que tu as vu, toi.
Oui, oh là là,
dans le rôle de Bambou.
Oui, oui, tout
voilà,
à fait.
Voilà.
Ah, splendide actrice.
Ouais, elle a l'air pas mal, quoi.
Ouais, elle a pas que l'air, d'ailleurs.
Et avec à ses côtés Jean-Hugues Anglade, Lio, Hélène de Saint-Père, Olivier Sitruc, donc ça se passe moitié en France, moitié en Inde. Donc Arnaud Sélignac, le réalisateur, est allé tourner en Inde à profiter bien entendu des décors naturels là-bas, des habituels figurants bollywoodiens, donc il y en a à l'appel. Hein, donc c'est quand même de la grosse production et c'est donc prévu. Mercredi prochain sur France 2 à partir de 20h35, deux épisodes par soir, donc okay, ça peut valoir le coup.
Ok, je me suis planté, c'était chez Casterman que c'était sorti et dessiné par Francis Vallès, celui qui a fait Les Maîtres de l'Orge.
Ah bah voilà. Voilà. Également Maîtres de l'Orge, également adapté à la télé.
À la télé, voilà,
ouais,
exactement.
Eh ouais. Steinfort, les Maîtres de l'Orge.
Exactement.
Ouais. Alors donc c'est mercredi hein, Rani donc sur France 2 à partir de 20h35. Sinon Arte nous diffuse encore un inédit dans cette série allemande qui s'appelle Double Jeu avec Senta Berger et Rudolf Krause. C'est deux flics allemands de Bavière là qui la dernière fois ils étaient partis en Italie carrément quoi, dans le sud de l'Italie hein, c'était vraiment très très bien. Là c'est un très récent téléfilm qui date de 2011 donc de cette année qui s'appelle Donnant, ça c'est la version française bien sûr, et outre Senta Berger et Rudolf Krause, on a également Johannes Herschmann, mais pour ce coup-là, ils vont rester en Allemagne, ils vont rester carrément en Bavière et tout, et ils vont voir que c'est très difficile de mener une enquête quand, ben, au-dessus, ben, on mettait des bâtons dans les roues parce que il y a des personnalités politiques qui sont un petit peu impliquées dans le truc et qui voudraient pas que certaines choses se sachent. Bref, bon, bah, ok. C'est d'actualité, c'est marrant, c'est incroyable. Donc, c'est sur Arte vendredi prochain à partir de 20h40. Et pour faire vite, ma série de films de la semaine, c'est que des films de bouse, quoi.
Bravo.
Des films de boule, non, on peut pas, des films de boule.
Des films de bouse.
De bouse, quoi.
Ah, des bouses.
Pas de Jamel, hein.
Ouais, des bouses.
Des bouses, d'accord, ok.
Ou assimilés comme tel, quoi. Alors, dimanche, demain, sur aujourd'hui, y a rien. Aujourd'hui, vous regardez...
Il y a pas de bouse.
Non, aujourd'hui, vous regardez Downton Abbey. Ce soir. Ou okay. Alors, vous allez voir les Palavas Surfers et Massey Ferguson Memorial au tilleul.
Non.
Alors, sur Sci-Fi demain à 20h45, Panique à Rock Island de Tony Tilsey avec Vivi Bianca et Grant Bowler. Où des gens qui se rassemblent pour un festival de rock en Australie et bien se rendent compte qu'un virus se propage. Merde, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre, quoi. Lundi sur TMC, ouais, Piège au soleil levant à 22h50 de Mink avec Steven Seagal.
Ah, je m'en doutais.
Non, c'est parce que c'est un clipper le mec, quoi. Mais à tout diable, c'est William Atherton. Qui joue le rôle du méchant.
Ouais, obligé.
Alors que William Atherton, il a quand même commencé sa carrière avec le deuxième Spielberg. C'était lui le rôle principal, là, avec, comment il s'appelle, le nouveau, quoi. C'est cette espèce de course-poursuite, là.
Non, c'est pas
Le duel.
Non, pas duel, le film juste après duel. Je me rappelle pas son titre et tout, quoi.
Trafic.
Mais,
putain, merde.
Spielberg passe au Derberg.
Ah, merde.
Non, qu'il a fait en 74, quoi, juste après duel.
Et dans de la mer.
Non, pas les Dents de la Mer, c'est 77 ou 78, les Dents de la Mer, quoi. Non, le deuxième qu'il a fait juste après, que l'histoire de deux paumés, la femme essaie de, la fille essaie de la femme essaie de retrouver sa fille, ils font des petits larcins, puis le mec finit au trou et tout ça, quoi. Et donc le rôle principal, c'est William Atherton, mais très jeune, quoi. Donc,
es-tu sûr de ça?
Ah oui, 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 oui.
Est-ce que c'est un téléfilm?
The Sugarland Express,
voilà. Excellent film, très bon film, hein. C'est, on cite très peu ce film de Spielberg.
Merci Wikipédia.
On cite très peu ce film de Spielberg, et pourtant il est vraiment très très bon, quoi. Vraiment, hein, c'est et donc c'est William Atherton dans le rôle principal. Ensuite, on a alors ça c'est lundi, donc lundi sur NRJ 12, on a également il repasse King Rising au nom du roi, Usain Bolt, excellent. Et vous en avez deux pour le prix d'un, vu que après King Rising, vous avez Beowulf de, avec Christophe Lambert.
Ben forcément, c'est la pause.
Facile, facile.
Je l'ai vu, il est bon, je dirais pas ce que c'est, mais c'est...
Alors sur TF6 lundi, bien des films avec des bêtes dedans.
Ah.
Tout d'abord, des requins bien sûr. Ouais. Le film s'appelle Requin à 20h45.
C'est des requins mutants ou pas?
Non.
Des normaux.
Non, mais c'est une super production, hein, parce que c'est en deux parties, c'est James Costner en 2008. Ah, c'est plutôt ce qui se passe en dehors de la mer qui est plus intéressant, des promoteurs immobiliers qui veulent ravager la côte et tout ça et tout, et avec un casting de béton.
Et les requins ne sont pas d'accord avec le cadastre.
Le casting qui est de béton carrément, t'as Daryl Hannah, John Schneider, Armand Assante, enfin bon, tu vois, genre vas-y quoi.
Du casting en or massif mais debout quand même.
Voilà. Et après encore un film de bête à 23h40, Mosquito Man de Tibor Takács, qui est un spécialiste de ce genre de film, avec Corinne Nemec.
Le pauvre.
Et Austin Jordan et Jay Benedict. Mardi sur 13e rue, on a celui-là il est pas mal en fait, quoi, mais on rigole bien, quoi. C'est le Mexicain, donc que vous avez chroniqué avec de Scott Thomas, avec Fabian Carillo dans le rôle principal, Gary Buzet et Lorenzo Lamas. Nickel. Non, vraiment, non, il est pas
à chier. Je vois pas ce qu'il fout dans cette sélection.
Ben ça fait rien, non. Mais il est assimilé comme tel, quoi. Si tu veux, quoi. C'est un DTV.
Non,
donc,
Lorenzo Lamas, voilà, c'est quoi. Obligé de le mettre dans les bouses, non.
Ouais. Mercredi sur AB1, priorité absolue de John Terleski, qui lui est un réalisateur confirmé de
bouses,
de séries. Non, de séries. Hein. John Terleski, tu le vois, réalisateur de très très bonne série, quoi. Donc et puis là, on lui laisse la main libre de temps en temps. Allez, vas-y, fais un téléfilm, t'as gagné ta truc et tout. Avec Roy Scheider, Patrick Muldoon, Maria Conchita Alonso, où c'est le président des États-Unis d'Amérique qui va devoir sauver le monde, comme d'habitude.
Ah.
C'est normal, c'est son rôle.
Par le tank, par l'avion, par le porte-avions.
Ça, c'est mercredi, donc, sur AB1, 20h40. Et on a 20h35 sur Direct Star, on a L'Homme Traqué de Jeff Murphy, qui est pas si mal que ça en fait, avec Eric Roberts qui joue le rôle d'un type qui est obligé de réunir du fric pour sauver son fils qui a été kidnappé par une bande de malfrats dirigée par Carrie Wells. Et Eric Roberts fait du Eric Roberts, c'est-à-dire excellent, très bon, pas de problème. Et c'est assez intéressant parce que au départ du film, c'est le mec normal, cool, c'est-à-dire il a aucun lien avec la pègre et tout, il est pas flic là, enfin. Et puis au fur et à mesure, il se rend compte que il se fout bien de sa gueule et puis que ça lui plaît pas du tout. Et il faut pas faire chier Eric Roberts, donc.
Ah, ça c'est sûr.
Ça va mal se finir, quoi. Enfin, pas forcément pour lui, hein. Mais je vous en dirai pas plus. Bon, c'est pas trop mal en fait, hein. Mais c'est quand même un DTV, donc voilà, quoi. Ensuite, on a jeudi sur NT1. Hitman de Xavier Jens, quoi.
Xavier Jens.
Je sais pas, on prononce à la française, nous on est en France, quoi. Avec Timothy Olyphant et Robert Knepper. T-Bag. Yes. Sur 13e rue, jeudi, 20h40. Trou de justice de Kaoni Waxman. Celui-là, je vous ai dit avec Steven Seagal.
Au secours!
C'est la deuxième diffusion parce qu'il date de cette année, quoi. Mais quoi, t'as compris. Ou sinon, on a carrément sur Sci-Fi. Alors là, ça, je vais regarder quand même parce que ça a l'air d'être terrible. Almighty Thor, sorti cette année. Donc,
C'est un téléfilm pour relancer un peu la franchise, peut-être.
Peut-être, de Christopher Rea avec Cody Deal et Richard Grieco. Retour de Booker et de 21 Jump Street. Richard Grieco, tu crois pas qu'il doit jouer Loki à tous les coups?
Ah, si.
Obligé.
Je suis le traître.
Alors juste, je me suis bien marré cette semaine parce que j'ai regardé le programme télé et il y avait une interview de Steven Seagal
à l'occasion de la diffusion de sa série là où il fait le
Strip
Justice. Voilà. Et alors on lui dit au fait, vous aviez refusé d'apparaître dans Expendables 1, pourquoi avoir accepté d'aller dans le 2? Alors il disait oh, j'avais mes raisons et tout. Et puis à la fin de sa tirade, il dit d'ailleurs pour le 1 j'attends toujours une once de scénario. Et alors j'ai beaucoup ri parce que venant de sa part, c'est complètement déplacé, mais il a pas tort le bougre. Mais ça fait bizarre l'entente de Steven Seagal.
C'est l'hôpital qui se fout de la mandale.
Voilà. Ah, mais non, mais c'est son côté bouddhiste qui ressort. Quoi.
Voilà.
Tout simplement. Alors, à part Almighty Thor, jeudi prochain, on a également sur AB1 72 heures pour mourir de William Greenblatt avec James Marshall et Esaïe Morales, dont j'ai pas vu le début, mais j'ai vu la fin. Je suis tombé dessus par hasard, donc je me suis dit, ouais, Esaïe Morales quand même, merde quoi. Et puis bon, alors c'est un scientifique qui doit retrouver un virus qui s'est soi-disant disséminé. Et donc, parce que s'il le retrouve pas, bah, tout le monde va mourir. Voilà.
D'accord.
Donc j'en dirai pas plus parce que j'ai vu la fin. Donc, voilà, le truc, c'est un petit peu ça. Et on termine avec vendredi sur RTL9, le gardien du manuscrit sacré de Paul Hunter avec Chow Yun-Fat et Sean William Scott. Bon ben ça a sa place, hein, y a pas de problème.
Okay.
Hein.
Ah, tout à fait, tout à fait. Tout clair. Nouveau film de Sean Fat a sa place dedans.
Ah, là y a pas de problème. Hein. De toute façon, pour toi c'est une grosse production, mais bon, voilà quoi. Hein. Sur Sci-Fi, je vendredi prochain également à 20h45. Alors là, vous allez voir, hein, je vais souffler le chaud et le froid. Oh, oh, elle est bonne. Avec tout d'abord sur Sci-Fi 2012, l'âge de glace de Travis Fort. Où carrément une catastrophe nucléaire déclenche un nouvel ère glaciaire, le monde va être sauvé par Patrick Labortio et Kyle Morris.
Qui a laissé frigo ouvert.
Ou alors sur TF6, là c'est vraiment souffler le chaud et le froid, parce qu'à 20h45 ça s'appelle Ice de Jean de Segonzac. Alors lui, bon, également réalisateur TV, très confirmé.
Très connu sur les New York Unités Spéciales.
Ouais, toute la franchise Law and Order, mais pas que, hein. Pas que. Je l'ai vu également
dans Damages,
dans NCIS Los Angeles, où il réalise également des épisodes. Bref, bon, ok. Hein, lui, c'est un réalisateur télé confirmé. Il y a pas de problème. Mmh. Et donc, il nous fait ce Ice avec Grand Show. Ah ouais.
Ah ouais.
Udo Kier, Eva LaRue. Mais si la scientifique dans CSI Miami.
La brunasse.
La blonde.
Non, pas la blonde. L'autre. Celle qui vient au bout de 5-6 saisons, là.
Oh, oula, je sais pas si voilà. Autant, moi.
Ah, bah, mais c'est pas grave, il les diffuse dans le désordre, quoi. T'es obligé de tomber dessus. T'es obligé de tomber dessus, tout à fait, quoi. C'est la caution belle gonzesse.
Quatrième vanne sur TF1.
Voilà, quoi, c'est ça, quoi. Alors que l'autre, bon, bah, ok, quoi.
Oui, la frisée, là.
Ouais. Ouais, non, la blonde.
Ah oui, non, c'est
les cheveux lisses. Toutes les bières.
Et Singer, ou je sais plus comment elle s'appelle, Azinger ou. Ouais.
Non, Miami.
Oui, à Miami, non, Azinger, c'est chez Las Vegas.
Ouais, attends. C'est à Las Vegas.
Ils vont passer toutes les bières, toutes. Ou
Miami,
toutes les salades.
Miami, celle qui a l'accent du sud, la coupée.
Ouais,
au couteau,
et en ce moment, je regarde Manhattan, alors je confonds aussi avec la blonde de Manhattan aussi, désolé.
Non, rien à voir. Et donc, après ce Ice, à 22h20, on a Piège de feu.
Ah, le show est froid.
Harris Don, et c'est Dean Cain qui va jouer les pompiers,
bravo.
En compagnie de Richard Tyson et de Vanessa Angel. Et on termine avec un péplum, c'est normal, on est vendredi soir sur FX, Massiste contre le Cyclope de Antonio Leon Viola avec Mitchell Gordon. Donc attention, c'est du culturiste, c'est du bon ça, il y a pas de problème, du musclé.
Il y a pas à dire, ouais.
Et presque du tatoué quoi.
On y va, il est 13h.
C'est du huileux.
Il est 13h50 et 40 secondes sur la poubelle des radios 89.1 MHz. Thomas, peux-tu s'il te plaît faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route?
Oui, tout à fait. Nous avions un léger débrief du cosplay géant de la Beige, du jeune auteur multidécoré, une légende de plus au royaume d'Hadès, des super-héroïnes frottées, des intégrales sous le sapin, un oiseau qui parle, des reconstitutions latines, la Louisiane et ses cafards, du gitan buriné, Xavier qui aura niqué du sport avant la 300e, des bandes de cons, de la bouse, des bébêtes, du requin normal, du chouet froid et du huileux.
Non, d'une armure céleste. Ils ont manqué tout ça, heureusement, grâce à la diffusion différée. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions, demander des invitations pour le 7 janvier 2012, pas 300e de cette émission. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr. supplément week-end.fr sans accent ni tiré. Et voilà, vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz. Ça fait 30 ans ferme que nous sommes à l'antenne et nous sommes très heureux d'être une radio alternative. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Et là, dans l'immédiat, nous sommes en direct et jusqu'à 17h. Après, c'est Booster FM qui prend la suite. Bon, dans le prochain épisode, je crois qu'on va parler d'organisation de festivals et du sport.
Ouais, ouais, dans l'agenda, il y a quand même un truc dont il faut que je vous cause. C'est cet après-midi, c'est... une rencontre à la librairie Renaissance, c'est du côté de Basso-Cambo, Allée Saint-Sens. Et c'est Philippe Guilen qui est auteur d'un livre qui s'appelle José Cabrero Arnal, de la République Espagnole, aux pages de Vaillant, la vie du créateur de Pif le chien.
Et oui, d'accord. Qui était espagnol, tout à fait.
Voilà, et
très,
donc
très bien.
Philippe Guilen donc a réalisé ce bouquin qui vient de sortir et il sera donc présent à partir de 15h cet après-midi à la librairie Renaissance. Il n'y a pas que lui, il y a également un autre auteur, mais qui n'a rien à voir avec le monde de la bande dessinée, mais qui est néanmoins assez intéressant. C'est Jean Ortiz, enseignant à l'université de Pau, qui est auteur de Madrid à Valparaiso, Neruda et le Winnipeg. Voilà, donc ça c'est cet après-midi à la librairie Renaissance.
Vous écoutez FMR, c'est les 30 ans de la radio et peut-être... Hop, avant l'émission de samedi prochain, je sais pas si Thomas sera là ou du sport, mais en tout cas, on sera mardi soir à la Cinémathèque à 21h, si ça vous dit de passer, voilà. N'hésitez pas, vous écoutez FMR 89.1 MHz, merci de nous suivre, merci de nous soutenir, et merci surtout d'apprécier nos programmes.
Allez, un petit peu de sport vite fait et tout, mais plus pour parler de pognon, hein, parce que c'est pas terrible. Alors déjà, le rapport financier de la Fédération française de football, eh bien, a été révélé cette semaine. Enfin, révélé, a été mis au jour et tout quoi. Alors donc, tout va bien. Le dernier exercice est bénéficiaire, plus 0,5 million de francs de bénéfices. C'est quand même pas mal. D'euros. Et en plus, il précise que s'il est si minime que ça, c'est parce qu'il a fallu dédommager.